Europe 1.
Europe 1, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Lionel Gougelot.
7h et à la une de l'actualité, le grand débat va-t-il faire pchit après le gros couac? L'Élysée renonce à inviter les soulèvements de la terre au salon de l'agriculture. Collectif accusé de mener des actions violentes. La FNSEA en colère menace de ne pas venir au rendez-vous du président. Majoubi expulsé vers la Tunisie pour ses prêches anti-France. L'imam du Gard interpellé et renvoyé sur le territoire tunisien en seulement 12 heures. La guerre en Ukraine, elle entrera demain, je vous le disais, dans sa troisième année. L'Europe doit livrer plus d'armes et de munitions, dit le chef de la diplomatie européenne. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, justement, est-elle la solution à long terme? Près d'un Français sur deux pense que c'est une mauvaise chose. Principal enseignement d'un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche.
Europe 1.
Le journal de 7h présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Fallait pas les inviter. Emmanuel Macron avait tout prévu sauf la réaction du monde paysan. On résume. Au départ, le chef de l'État annonce un grand débat. Tout le monde est invité, y compris les ONG environnementales, comme les soulèvements de la terre. Problème, ce collectif aux méthodes violentes n'a pas vraiment la cote dans les campagnes. À son passif, la cinquantaine de gendarmes blessés lors des manifestations anti-bassines de Sainte-Soline. Depuis, l'Élysée a fait marche arrière toute. Trop tard, le mal est fait. La FNSEA envisage de ne pas venir. Son secrétaire général Hervé Lapy est très remonté.
Le mal est fait, la provocation a été faite, les soulèvements de la terre ont été invités par l'Élysée. Là, rétro-pédalage, on nous dit qu'ils ne sont plus invités. On va nous évoquer l'erreur du stagiaire, certainement, hein, parce que voilà, il y a une petite coquille, alors on va sortir l'argument qui va bien. Mais je crois que voilà, ça sera trop facile de trouver des excuses. La provocation, elle est faite, elle est réalisée. Nous, on prendra la décision en bureau de la FNSEA pour savoir l'attitude à adopter. Mais le malaise et la crise qu'on connaît en agriculture méritent certainement plus de respect. Et la colère des agriculteurs est tellement grande que je pense qu'on aura du mal à revenir au débat avec le président de la République.
Une provocation, dit le secrétaire général de la FNSEA, joint par Antoine Bienveau. Son président Arnaud Rousseau dénonçait hier soir une mascarade. Alors récit d'une volte-face élyséenne, comme si vous y étiez, Arthur Delaborde.
Le carton d'invitation envoyé au soulèvement de la terre a finalement été déchiré tard hier soir. Plus tôt dans la journée, l'annonce de la présence du sulfureux mouvement écologiste avait été vécue comme une déclaration de guerre par les agriculteurs. Il faut dire que l'invitation avait de quoi surprendre. Le gouvernement ayant longtemps souhaité dissoudre ce collectif adepte des actions violentes avant d'être retoqué par le Conseil d'État. C'est incompréhensible d'avoir pensé à les inviter, reconnaît un cadre de la majorité. À ses yeux, cela aurait été interprété comme un désaveu non seulement pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour les agriculteurs vandalisés et les policiers blessés. L'Élysée a donc rétro-pédalé pour tenter de sauver son grand débat, ce qui n'est pas encore totalement acquis. La FNSEA doit convoquer aujourd'hui un bureau pour décider si ses représentants participeront ou non aux discussions. L'éventuelle absence du syndicat agricole majoritaire serait un gros coup dur pour le chef de l'État, admet un conseiller de l'exécutif.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, un salon plus que jamais sous tension. Vous l'entendez, ça se passe en ce moment, 7h03 sur Europe 1. Ça se passe en ce moment sur le périphérique parisien, convoi de plusieurs dizaines de tracteurs à destination de la porte de Saint-Cloud à l'appel de la coordination rurale.
Il y a déjà une ambiance de contestation hein, du côté à propos de ce salon de l'agriculture. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi l'expulsion vers la Tunisie de l'imam Majoubi.
L'arrêté d'expulsion couvre un champ très large. Il lui est reproché des prêches haineux et discriminants à l'égard des femmes, des juifs et de la société française. Tout est allé très vite entre son interpellation à domicile et son renvoi par avion. Quelques heures seulement, Jean-Baptiste Marty.
Effectivement, moins de 12 heures après son arrestation à son domicile de Bagnols-sur-Cèze, l'imam de 52 ans a dans un premier temps été transféré en Île-de-France dans un centre de rétention administrative. Un passage éclair donc. Majoubi a dans la foulée été conduit à l'aéroport pour prendre un avion direction Tunis. Alors c'est notamment grâce à son passeport tunisien retrouvé par les policiers que les autorités ont pu le renvoyer du territoire national si rapidement. Car contrairement à beaucoup d'étrangers expulsables de France, mais qui ne peuvent prouver leur pays natal car sans aucun papier, lui justifié d'un pays d'origine. Un renvoi possible donc en dépit du recours devant le tribunal administratif déposé par le conseil de l'imam. Et pour cause, ce recours n'était pas suspensif, c'est-à-dire qu'il ne pouvait en aucun cas suspendre la procédure de son renvoi dans son pays natal.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
L'actualité à l'étranger dominée par la guerre en Ukraine. Triste anniversaire demain, le conflit va entrer dans sa troisième année.
Et les les États-Unis annoncent un nouveau train de sanctions contre Moscou. 500 personnes ou entreprises liées à la machine de guerre russe sont ciblées. Le président Joe Biden l'a confirmé à l'issue d'un entretien avec la veuve et la fille d'Alexei Navalny, rencontre organisée en marge de sa campagne électorale en Californie.
Je voulais avoir l'honneur de rencontrer la veuve et la fille d'Alexei Navalny. Ce que je dis est une évidence, mais c'était un homme d'un courage incroyable. Et c'est extraordinaire de voir comment sa femme et sa fille reproduisent cela. Nous allons annoncer des sanctions contre Poutine, qui est responsable de sa mort. Et une chose est vraiment claire, Yulia va continuer le combat. Nous ne reculerons pas.
Le président américain Joe Biden, qui attend toujours du Congrès le déblocage de l'aide de 60 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine au cœur d'une réunion internationale lundi à l'Élysée à l'initiative d'Emmanuel Macron. Pas davantage de précision pour l'instant.
Mais sur le terrain, le conflit prend plus que jamais les dimensions d'une guerre d'usure.
Un front figé sur une largeur de 1000 km, conflit meurtrier, même si les chiffres doivent être maniés avec prudence. 300 000 soldats morts ou hors de combat côté russe, peut-être 200 000 côté ukrainien, selon diverses sources internationales. Moscou intensifie ses frappes, notamment dans la région de Kramatorsk, ville sous alerte permanente. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev.
11h du matin, une alerte de plus sur Kramatorsk. La veille au soir, la sirène a retenti sans arrêter l'engin mortel. Le missile a détruit la station de filtration d'eau et soufflé les immeubles voisins.
Ça a explosé à 150 mètres. Hier soir vers 8h, il y a eu 3 explosions, tout a tremblé, horrible.
Quelques minutes pour rejoindre le centre-ville et la revoilà déjà, cette satanée alerte.
Il faut avoir peur, surtout le soir et la nuit dans l'obscurité. Et des fois ça explose d'abord et l'alerte vient ensuite.
Un petit café, non loin de là, Vika, 31 ans, photographe.
Depuis la chute d'Avdiivka, il y a plus de bombardements.
Et cette angoisse de la mort l'a fait travailler comme jamais.
Il y a beaucoup de mariages et d'histoires d'amour de filles avec des militaires. Quand je fais les photos dans la nature, il y a souvent des drones, des tirs, mais on fait les séances car on vit au jour le jour. Il faut tout faire vite.
Vika se promet tout de même de partir si les bombardements deviennent plus intensifs. À Kramatorsk, Nicolas Tonev, Europe 1.
Alors l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est-elle la solution à long terme? Non, pour près d'un Français sur deux. 43% pensent que c'est une mauvaise chose. Principal enseignement d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD.
Europe 1, il est 7h07.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner à 7h. Et à ce propos, les scientifiques auraient trouvé la recette idéale, dites-moi.
Ben oui, selon les chercheurs, un petit déjeuner riche en protéines est la meilleure solution pour bien commencer la journée, Yasmine Akatou.
Oui, 80% des Français prennent un petit déjeuner et 6 sur 10 ont une préférence pour la traditionnelle baguette beurrée.
Moi, je prends un café, une tartine avec du beurre et du miel dessus. Un verre de jus d'orange et une tartine.
Je prends du chocolat chaud, du lait avec des vinaiseries.
Mais problème avec les croissants, souvent dans l'heure qui suit, le ventre gargouille. Alors qu'avec un petit déjeuner riche en protéines, des œufs, des flocons d'avoine par exemple, vous êtes rassasié. Et autre avantage, vous gagnez en moyenne 30 minutes de concentration en plus, 3 fois plus qu'avec des tartines. Claire Ojard est diététicienne nutritionniste.
En ayant un petit déjeuner protéiné, ben on va vraiment aider le corps à synthétiser la dopamine, la noradrénaline. Ce sont deux neurotransmetteurs, ce sont des molécules qui vont agir sur notre état d'esprit et avoir cet effet sur la motivation, sur la concentration et sur la mémorisation.
La nutritionniste recommande donc d'accorder son café à un petit fromage affiné, du saumon fumé ou des œufs. Les becs sucrés peuvent te penser aux muffins ou pancakes protéinés.
Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Tient le football, Marseille, seul rescapé des barrages retour de la Ligue Europa après sa victoire 3-1 contre le Shakhtar Donetsk. Tirage au sort des 8e de finale à midi. Lens, Rennes et Toulouse sont élus.
Merci Christophe Lamarre.
Dans un instant, on déroule le tapis rouge pour vous inviter, Lionel.
Benoît Magimel, Anna Girardot et Jean-Pascal Zadi, ils font partie des 13 maîtres de cérémonie de la 49e nuit des Césars du cinéma.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
7h11 et avant la 49e cérémonie des Césars à suivre ce soir sur Europe 1 et en clair sur Canal+. Lionel Gougelot, vous avez rencontré 3 des 13 maîtres et maîtresses de cérémonie qui vont présenter et animer la soirée.
Oui, soirée présidée par Valérie Le Mercier, président collégial effectivement, avec notamment Juliette Binoche ou encore Ariane Ascaride. Et hier, à l'occasion des dernières répétitions à l'Olympia, eh bien, j'ai rencontré Anna Girardot, Jean-Pascal Zadi et d'abord Benoît Magimel. Bonjour Benoît Magimel.
Bonjour.
L'an dernier, vous étiez sur cette scène pour recueillir un César du meilleur acteur. Cette année, vous êtes maître de cérémonie parmi 12 autres maîtres de cérémonie. Comment vous l'abordez, ce rôle, justement, de mise en valeur, quoi, finalement, du cinéma français ?
Écoutez, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux Césars à la suite. Et je me suis dit que j'avais peu de chance, quand même, cette année, d'en avoir un troisième. Mais il me semblait important de venir remettre ce prix du meilleur acteur. Parce que je crois que cette cérémonie est importante. C'est promouvoir le cinéma français. C'est de partager ça avec des spectateurs, avec un public. Et je trouve qu'il est nécessaire d'y participer. Voilà.
Alors encore une fois cette année, donc 13 maîtres et maîtresses de cérémonie, c'est un vrai travail d'équipe qui va permettre justement à dynamiser cette soirée qui est aussi un spectacle.
Oui, c'est un spectacle et c'est vrai que même s'il y a souvent des changements de ton d'une année à l'autre, on essaye systématiquement de faire plus court.
C'est un exercice qui vous amuse, Benoît Magimel, parce que ça a été du travail quand même, des répétitions, un texte, une écriture aussi peut-être, vous avez participé à l'écriture.
Oui, on participe à l'écriture, bien sûr, on travaille avec quelqu'un, mais bon, c'est vrai qu'après, on essaie de trouver ses propres mots, en fait, et d'essayer de trouver les thèmes qu'on a envie d'évoquer. Là, il s'agit de parler des acteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur acteur ? Voilà, c'est quelque chose de particulier. Ouais. C'est un moment d'émotion, voilà, qu'on partage. Voilà. C'est à un moment donné où vous avez tout le cinéma français devant vous, les spectateurs, voilà. Donc il s'agit de bien se tenir, quoi. Ouais. Il faut assurer.
Quel regard vous portez sur cette année de cinéma, l'année de 2023, une année riche, une année de succès pour plusieurs films.
Ouais.
L'occasion de mettre en valeur cette année aussi.
Oui, on a pu remarquer que quand même deux films au Festival de Cannes, ouais. Quand même, Palme d'Or et Prix de la mise en scène. Des films qui s'exportent, donc ça c'est extrêmement bon, ouais. De savoir que le cinéma français existe à l'étranger.
C'était un bon cru,
oui,
pour dire les choses simplement.
Oui, c'est une bonne année, et puis on remarque qu'il y a toujours une diversité vraiment dans la production française. Ouais. Il y a toujours tous les genres et tous les styles, et je ne pourrais pas me résoudre à être dans un genre unique, quoi. Et les acteurs parfois se plaignent d'être rangés dans une case. On leur demande souvent de refaire ce qu'ils ont déjà bien fait. Mais voilà, essayer de trouver plus d'unité peut-être. Et peu importe les gens et les styles différents qui s'opposent. Et en fait, il ne faut pas d'opposition, au contraire.
Vous allez être l'un des animateurs donc, de cette soirée, Benoît Magimel. Quel est votre coup de cœur cette année ? Ce n'est pas une question piège. Hein.
Non. Il y a des acteurs, si je parle des acteurs, j'ai trouvé que les acteurs qui sont nommés cette année ont fait un travail remarquable. J'ai beaucoup aimé le procès Goldman aussi, l'acteur qui a joué dedans. Encore une fois, c'est difficile de parler d'un film plus qu'un autre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le cinéma de Janeri. Ouais, je trouve que Quentin Dupieux
avec Yannick,
on revient avec un cinéma peut-être plus classique, en tout cas, revient avec des narrations plus classiques et touche un peu plus le public, un peu plus grand à chaque fois.
En tout cas, merci Benoît Magimel. Bonne soirée.
Merci.
Bonne présentation.
Merci. Bon, c'est très court ce que je vais faire, mais...
mais ça sera très bon, j'en suis sûr.
Je ne peux pas dire que je suis maître de cérémonie, mais... non. Bon, merci.
Merci
à vous.
Merci Benoît.
Je vous en prie.
Bonjour Anna Girardot.
Bonjour.
Comment vous abordez ce rôle de maîtresse de cérémonie ?
C'est toujours un exercice qui est amusant à faire parce que c'est aussi l'occasion de retrouver les collègues de travail, on va dire, et puis de célébrer. C'est une belle soirée pour célébrer les magnifiques films qui ont été faits cette année. Et puis, il faut le prendre comme quelque chose de joyeux.
13 maîtres et maîtresses de cérémonie, c'est un vrai travail d'équipe dans l'écriture. Dans les prestations scéniques.
Oui, alors surtout avec surtout avec notre duo. Moi, j'ai beaucoup écrit avec Jean-Pascal Zadi. On n'a pas vraiment, on ne sait pas.
On va entendre dans un instant.
Aux autres. Hein. C'est tous les deux surtout. On a pensé qu'à nous. Hein.
Oui, vraiment. Mais comment les rôles se sont répartis justement dans l'écriture ? Vous avez eu un coup d'œil justement sur les textes ?
Bien sûr. Non. On a travaillé. Jean-Pascal, il est quand même très très doué. Il est arrivé avec des impulsions d'idées. Moi, j'avais des idées. On a brainstormé. Puis ensuite, lui, il a vraiment une tchatch et un goût du verbe et de l'écriture qui est super. Et puis notre duo finalement fonctionne. On n'avait jamais travaillé ensemble vraiment. Mm-hmm. Donc finalement, c'était une bonne. On a une bonne alchimie tous les deux.
Mm-hmm. L'année 2023 aura été une belle année pour le cinéma français. C'est l'occasion aussi de célébrer ça.
Ah, bien sûr, on a une très 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 belle année. On a des... Moi j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de très bonnes réalisatrices cette année, des très beaux films et puis des films qui ont eu aussi un succès en salle tous. Donc il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de choses à célébrer et beaucoup de corps de métier différents à célébrer aussi.
Alors Anna, il se pourrait que Judith Godrèche soit sur scène ce soir pour un discours sur les violences sexuelles et sexistes dans le monde du cinéma. On sait qu'elle a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Vous pensez que ce type de prise de parole a sa place ce soir dans une telle cérémonie ?
Oui, je pense que les Césars ne peuvent pas passer à côté de ce message et de ce sujet et qu'il est très important que les Césars ne ferment pas les yeux ou ne fassent pas l'autruche face à un sujet qui remue autant et l'actualité et le métier et l'opinion publique.
Parce que ça doit participer d'une prise de conscience de l'ensemble de la profession.
Complètement, complètement, et de lui donner la parole, c'est montrer que la parole est donnée aux femmes et aux personnes qui se sentent victimes et qui ont besoin de l'exprimer.
Et pour que les choses changent, même si elles ont déjà un peu changé, j'imagine ?
Elles ont changé et il faut qu'elles changent encore plus. Et évidemment, il faut évoluer. Attention, il faut aller en avant, il faut se soutenir les uns les autres et les unes les autres beaucoup.
Dernière question, c'est pas une question piège. Votre coup de cœur cinéma cette année, Anna Girardeau.
Mon coup de cœur cinéma, oh là 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 là. Adèle Exarchopoulos, dont Je verrai toujours vos visages. Paul Kircher dans Le règne animal.
J'ai dit un.
Ah, j'ai dit un. Ben non, c'est pas possible. Bon, Anatomie d'une chute, évidemment, ouais. C'est un film que j'ai revu récemment et on découvre encore plus de choses la deuxième fois. Et c'est ça aussi ce qui est merveilleux dans les Césars. Il y a des films qui sont sortis peut-être en début d'année dernière et qui vont être célébrés ce soir et qu'on aura envie de redécouvrir. Un film, c'est une vie, c'est une carrière, c'est une longue vie parfois. Et c'est une bonne manière de les célébrer aussi.
Merci Anna Girardeau. Bonne soirée.
Merci,
à ce
bonne
soir.
Soirée.
Jean-Pascal Zadi, vous, cette scène de l'Olympia, finalement, vous la connaissez parce que vous êtes déjà monté grâce à cette récompense en 2020 pour Tout simplement Noir. Là, vous allez être donc présentateur, maître de cérémonie. On dit souvent que c'est très compliqué de dérider une salle comme celle de l'Olympia à l'occasion de la soirée des Césars. C'est vrai ? C'est un challenge pour vous ?
Moi, spécialement, c'est tout ce que j'adore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ne sont pas là pour rigoler et qui ont réussi à faire rigoler. C'est la raison pour laquelle, moi, les trucs de stand-up et tout, je ne suis pas spécialement fan, parce que les gens, ils viennent pour rigoler. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est être devant un parterre, on ne va pas dire hostile, mais bon, ils ne sont pas là pour rigoler et tout.
Aller chercher le public, quoi.
Voilà, j'adore ça. Aller chercher le public, aller faire rire les gens qui ne sont pas là pour rire. Quand tu vois le petit sourire sur le visage de quelqu'un qui n'était vraiment pas là pour ça. C'est vraiment mon truc, à l'arrêt de bus, dans le métro, ou à la boulangerie, ou à Franprix avec la caissière. Pour moi, c'est un challenge d'aller chercher les gens qui ne sont pas là pour rire.
Ce travail en équipe de maître et de maîtresse de cérémonie, ça donne une dynamique particulière également
oui,
à la présentation.
Moi, je suis super heureux de faire ça en équipe. Je suis super heureux d'avoir quelqu'un avec qui... faire mon ping-pong, savoir si les choses sont marrants ou pas marrants. Moi, de toutes les façons, j'adore le truc d'équipe. C'est comme mon film Tout simplement Noir. C'était un film un peu choral. Ma série aussi, c'est un truc un peu choral. Waouh, le gars est mégalo, il parle de lui. Oui, non, mais j'aime bien en fait rebondir et travailler en collaboration avec les gens. J'adore.
Un mot, votre coup de cœur des Césars cette année ? Le film, l'actrice, l'acteur ?
Quand même, mon coup de cœur de cette année, c'est quand même Raphaël Quenard. Que c'est un acteur et même pas qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est vraiment bien. Je trouve qu'il apporte quelque chose dans le cinéma français par sa présence. Il est un peu fou. Bon, ça, on va pas laisser ça aussi qui fait le charme de Raphaël Quenard. Je serais vraiment content s'il est récompensé pour le boulot qu'il a fourni cette année parce que c'est un vrai passionné.
On espère que vous allez lui porter chance. Merci Jean-Pascal Zadi.
Merci.
Bonne soirée.
Il n'y a pas de souci. Bisous.
Et puis je vous rappelle que cette soirée est à vivre ce soir sur Europe 1 et en clair sur Canal+.
Et surtout, on en reparlera demain dans Clap, l'émission qui raconte le cinéma comme chaque samedi de 19h à 20h sur Europe 1. Laurie Soleva reviendra sur les moments forts de la soirée, le palmarès, les réactions des lauréats. Et puis elle recevra aussi Patrick Timsit pour le film Tomber du camion en salle le 28 février.
Europe 1.
Avant de retrouver l'heure d'Autriche et les archives d'Europe 1, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Confusion, mépris et désordre pour Marine Le Pen. Éric Ciotti dénonce le « en même temps macroniste » insupportable. Les réactions du Rassemblement national et des Républicains après le volte-face de l'Élysée sur les soulèvements de la terre. Emmanuel Macron renonce à inviter le collectif réputé pour ses méthodes violentes au grand débat qui doit se tenir demain au Salon de l'agriculture. L'idée même avortée provoque la colère de la FNSEA. La principale organisation syndicale agricole menace de ne pas participer aux discussions. Un exécutif plus que jamais sous pression, malgré les annonces des derniers jours. Plusieurs dizaines de tracteurs signalés en ce moment sur le périphérique parisien. Le convoi fait route vers la porte de Saint-Cloud. La guerre en Ukraine entrera demain dans sa troisième année. Le conflit complique les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. Une entrée qui serait une très mauvaise chose pour 43% des Français. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. 7h23, notre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. C'est le jour où.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors ce matin, Laure, vous revenez sur la toute première édition du Salon de l'agriculture. C'était il y a précisément 60 ans, en 1964.
Oui, premier salon de l'agriculture et premier studio. Un studio de verre installé par Europe 1 au milieu des animaux.
Il y a combien d'animaux à peu près ici ?
3000. Des pigeons, des canards, des oies, des lindons, des poules.
Et évidemment, des centaines de vaches, montbéliardes, charolaises ou limousines.
Les animaux supportent bien ce genre d'exposition ?
Bien, il semble qu'ils la supportent bien. Je pense que le manque d'oxygène peut-être les...
Oui, l'odeur est très forte.
Un peu.
Ce salon de 1964 récompense aussi lors d'un concours la plus belle vache jersiaise, connue pour la qualité de son lait. La lauréate produit 14 litres de lait par jour.
Est-ce que vous avez une alimentation particulière ?
L'alimentation, ma foi, c'est le pâturage ordinaire, plus 10 kg de luzerne par jour, 10 kg de choux et 3 kg de concentré.
Cette première édition est un succès avec 300 000 visiteurs. Et contrairement à aujourd'hui, les politiques ne serraient pas les mains des visiteurs. En 1964, le ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, vient débattre avec des agriculteurs dans le studio d'Europe 1, en particulier sur le sujet de la hausse des prix.
Est-il exact que le prix de la viande, à part le mois de septembre et le mois d'octobre, a été en augmentation de plus de 9% par rapport à l'année 62 ? Est-il exact que le prix du mouton a augmenté de plus de 20% ?
1500 auditeurs d'Europe 1 ont aussi envoyé par courrier des questions à poser au ministre de l'Agriculture.
Ce sont là des chiffres qui montrent d'abord une chose, c'est que les agriculteurs de France ont certainement besoin d'être mieux renseignés et souvent aussi d'être rassurés.
Pendant cette première édition du Salon de l'Agriculture, pas de visite du président de la République, mais l'année suivante, en 1965, le général de Gaulle viendra visiter le salon et inaugure alors l'ère des déambulations présidentielles.
Devenue une véritable tradition. Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin. Et oui, cette semaine, tentez de gagner un séjour de rêve en Corse du Sud, puisque Europe 1 vous offre 3 nuits dans le sublime hôtel 4 étoiles Le Pinarello, face à la baie de Pinarello, non loin de Porto Vecchio. L'hôtel est posé directement sur la plage, avec terrasse privative sur la mer, spa, piscine sur le toit, avec vue sur cette baie turquoise, vue paradisiaque, que je vous invite à découvrir sur le site lepinarello.com. Et pour tenter votre chance, eh bien envoyez Corse au 7 39 21, 2x75 centimes, plus le coût du SMS, en répondant à cette question.
Alors la question, la voici. Qui était ministre de l'Agriculture en 1964 lors du premier salon ? Réponse A, Edgar Pisani. Réponse B, Edgar Faure.
Bonne chance à tous. Allez, soyez les bienvenus dans Europe 1 Matin. Notez à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
C'est Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, qui sera au micro de Romain Desarbres pour cette grande interview Europe 1 CNews. A tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
La météo, Marlène Duré, l'alerte orange pour les vents violents et les fortes pluies a été levée. Seuls deux départements ont été maintenus en vigilance orange pour les crues.
Absolument, la Vendée et les Deux-Sèvres, en raison des cumuls de pluie apportés par ces deux fronts qui se sont succédés et qui ont balayé le pays hier. Et puis en raison aussi des averses qui vont se produire un petit peu tout au long de la journée. Risque d'averses valables sur une grande partie du territoire. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles pourront s'accompagner de coups de tonnerre ou même de grésil, voilà, plutôt sur l'ouest du pays. Les vents vont
rester sensibles et pour trouver un temps plus stable, avec parfois même de belles éclaircies, il faudra longer les frontières de l'Est, aller du côté des régions alpines, en Provence, de la Provence même jusqu'au sud du Roussillon.
Il fait plus frais ce matin. Les températures maximales prévues aujourd'hui entre 7 en Haute-Vienne et 16 sur la baie des Anges.
Oui, 7 par exemple du côté de Limoges. Nous aurons 8 degrés à Aix-les-Thermes, au Havre, à Bordeaux, 9 attendus à Tarbes, à Paris, Annecy, 10 degrés à Reims et à Gap, 11 à Lyon, 12 à Mulhouse et Montélimar, 13 à Nîmes, 14 degrés à Bonifacio et 16 effectivement sur la baie des Anges à Nice.
Merci Marlène Duret. Bonne matinée sur Europe 1. Il est 7h30. Voici un nouveau journal.
Europe 1 matin.
7h-9h, Lionel Gougelot.
Et à la une ce matin, le carton d'invitation est déchiré, mais le mal est fait. La FNSEA menace de boycotter demain le grand débat voulu par Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Le syndicat agricole dénonce l'invitation envoyée par l'Élysée au soulèvement de la terre que le ministère de l'Intérieur avait voulu dissoudre en novembre dernier. Après 2 ans de guerre, l'avenir de l'Ukraine se joue-t-il au sein de l'Union européenne ? 43% des Français n'y sont pas favorables, selon un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le Journal du Dimanche. Il est de retour en Tunisie, l'imam radicalisé du Gard, accusé d'appel à la haine pour avoir qualifié le drapeau français de satanique, a été expulsé moins de 12 heures après son interpellation. Et puis Houston, tout a fonctionné. Une sonde américaine s'est posée sur la Lune hier et a pu transmettre un signal. Une première depuis 50 ans pour les États-Unis, mais surtout une première dans l'histoire, puisque cette sonde a été envoyée par une entreprise privée. Récit à la fin de ce journal.
Europe 1.
Le journal de 7h30 présenté par Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Une provocation pour la FNSEA, une décision hors sol pour la coordination rurale, un affront. Selon Marine Le Pen, quelques-unes des réactions après l'invitation envoyée hier par l'Élysée au soulèvement de la terre pour participer au grand débat qui aura lieu demain au Salon de l'Agriculture. Invitation finalement retirée face à la polémique, mais la FNSEA menace désormais de boycotter le rendez-vous avec le président de la République. Ce face-à-face avec Emmanuel Macron, un moment attendu de pied ferme par les agriculteurs, ils sont beaucoup à n'avoir pas encore vu la couleur des aides promises. Portrait de l'un d'eux ce matin avec le correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Samuel Douville cultive des céréales à Saint-Priest, près de Lyon. Pour lui, comme pour les autres agriculteurs, les aides de la PAC sont indispensables au fonctionnement de son exploitation. Sauf que pour l'instant, malgré les promesses du gouvernement, il est loin d'avoir reçu tout ce qui lui est dû.
On a reçu à peu près 70% de nos aides. On attend une partie des aides qui sont liées aux différents types de cultures qu'on a mis en place l'année dernière.
Donc il manque 30%?
Oui, sur notre exploitation, c'est entre 30 et 40 000 euros.
Qui vous manque?
Voilà. C'est pas négligeable du tout.
Une somme conséquente qui en plus arrive toujours très tard, ce qui aujourd'hui met en péril la survie de l'exploitation.
C'est dur de tenir, il faut bien penser qu'en fait on touche les aides à un an après le début de notre travail, en fait. Pour mettre en culture le blé, par exemple, et ben on achète les semences, on utilise nos tracteurs, on utilise du GNR. Donc on avance encore l'argent, on touche les aides un an après. On pourrait fortement accélérer, et 6 mois après, ça serait intéressant déjà.
En attendant, Samuel Douville n'a que le 15 mars en tête, date à laquelle le gouvernement s'est engagé à ce que 100% des aides soient versées aux agriculteurs.
Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Direction maintenant les portes du salon qui se prépare en ce moment même, porte de Versailles. Toute la nuit, défilé de bétaillères, vaches, veaux et cochons prennent place petit à petit dans le parc des expositions. Et parmi les paysans, Peter Hemsworth, éleveur bovin anglais installé dans le Gers, qui a confié au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez attendre des annonces de la part du président demain.
Ce que j'ai attendu du président par rapport le prix qui touche les agriculteurs, que ce soit beaucoup plus juste. Parce que les agriculteurs ils doivent vivre aussi. Et si tu veux qu'ils produisent bien, il faut leur donner aussi le moyen. Déjà, ça donne aux agriculteurs le sentiment qu'on nous prend pour sérieux. Et ça, c'est important parce que ça c'est un des gros problèmes. Parce qu'on critique de plus en plus les agriculteurs, on impose de plus en plus de règles. Je crois qu'en direct, il ne peut pas rien faire pour nous. Il peut soutenir les agriculteurs, mais il ne peut pas changer le monde parce que... On vit en France, mais on vit aussi en Europe et on vit dans un monde entier. Et il faut s'adapter à tout ce qui se passe. C'est compliqué, je le sais, je le trouve moi-même aussi. Mais à l'autre côté, il faut aussi qu'on soit fier de ce qu'on fait.
Peter, éleveur bovin au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez. Une manifestation est d'ailleurs en cours sur le périphérique parisien. Des tracteurs de la coordination rurale font route vers la porte de Saint-Cloud. Objectif, faire entendre la colère qui gronde toujours, et nous serons en direct avec eux et Martin Lange dans le journal de 8h sur Europe 1.
Un salon de l'agriculture sous pression, donc on l'a bien compris, qui sera vraisemblablement le premier round politique également pour les élections européennes de juin prochain.
Emmanuel Macron joue gros alors que la majorité n'a toujours pas de tête de liste et que le Rassemblement National lui caracole en tête des sondages. Alexandre Chauveau, c'est donc le lancement de l'opération séduction pour tous les partis politiques.
Toutes les formations politiques en ont conscience. L'exécutif d'abord, en première ligne face à la grogne des agriculteurs. Emmanuel Macron joue gros demain. Il mise sur le grand débat et des annonces concrètes pour tenter de désamorcer la crise qui, si elle venait à durer, pourrait fortement nuire aux candidats du parti présidentiel. Dimanche, ce sera au tour de Jordan Bardella d'arpenter les allées de la porte de Versailles. L'an dernier, le président du Rassemblement national avait été très chaleureusement accueilli par les agriculteurs. Il compte ce week-end accentuer le contraste avec un Emmanuel Macron potentiellement chahuté la veille. Au RN, la crise agricole est vue comme l'un des symptômes de la politique européenne portée par le chef de l'État et donc un angle d'attaque tout trouvé pour la campagne à venir. Mais l'argument est aussi partagé chez LR. François-Xavier Bellamy sera présent lundi sur place aux côtés de Céline Imar, numéro 2 sur sa liste et agricultrice de profession. Porte de Versailles, la recrue des Républicains sera dans son élément. La droite en fait un argument majeur pour apparaître crédible face à une crise qui pourrait donc bien marquer la campagne des Européens.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Faut-il amarrer l'Ukraine à l'Europe ? La question se pose alors que Kiev s'apprête à entrer demain dans sa troisième année de guerre contre la Russie. 43% des Français n'y sont en tout cas pas favorables, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD.
7h36 sur Europe 1. Tout autre chose maintenant. L'horreur sur Internet. Il aura fallu plus d'un an et demi d'enquête aux gendarmes d'Orléans pour démanteler un vaste réseau pédocriminel.
120 victimes identifiées, âgées entre 3 et 15 ans, dont plusieurs Français. 6 hommes ont été interpellés, accusés d'avoir partagé 930 000 photos et vidéos, mais surtout, William Molinier, certains se sont filmés en train de violer leurs jeunes victimes.
Tout a commencé à l'été 2022. Les cyber-enquêteurs de la gendarmerie identifient des individus qui s'échangent des photographies d'enfants en sous-vêtements. Tout cela se passe sur une messagerie sécurisée et anonyme, hébergée en Russie. Les gendarmes parviennent à s'infiltrer dans ce groupe d'échange de fichiers. Ils y découvrent des photos, des vidéos mettant en scène des enfants dénudés. Ces pédocriminels leur imposent des agressions sexuelles, parfois même des viols. 6 suspects âgés de 36 à 61 ans ont été mis en examen. Des Français au profil assez commun, comme la constaté l'adjudant Damien qui a conduit l'enquête à la section de recherche d'Orléans.
On est vraiment sur des monsieur tout le monde, c'est-à-dire que la majorité travaille, sont relativement bien insérés socialement, certains sont pères de famille. On n'est pas du tout sur le profil qu'on peut avoir en image du vieux monsieur avec son impair.
Lors des perquisitions, 930 000 photos et vidéos ont été retrouvées. Le matériel informatique saisi est toujours en cours d'analyse. L'enquête se concentre désormais sur la recherche de nouvelles victimes.
William Molinier, la France vient d'expulser l'imam Majoubi, accusé d'appel à la haine après avoir qualifié le drapeau tricolore de satanique dans un prêche posté sur les réseaux sociaux. Reconduit en Tunisie en moins de 12 heures après son interpellation, s'est félicité hier Gérald Darmanin dans un tweet.
Et puis je vous le disais en titre de ce journal, c'est une première depuis 50 ans. Les Américains sont de retour sur la Lune. Une sonde a alluni hier et envoyé un premier signal depuis le satellite naturel de la Terre.
Et c'est d'autant plus important que pour la première fois de l'histoire, c'est une entreprise privée qui a envoyé cette sonde. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Depuis une semaine, la NASA et ses partenaires retenaient leur souffle.
Oui, il était très exactement 18h24 sur la côte est des États-Unis quand le vaisseau Odysseus a alluni après 7 jours de voyage. Pendant de très longues minutes, le centre de contrôle de mission est resté sans nouvelles de l'engin. Et puis est venu ce message libérateur de Steve Altemus, le président de la société Intuitive Machine en charge du vol.
Je sais que c'était très angoissant, mais nous sommes sur la surface. Nous transmettons. Bienvenue sur la Lune.
Pour la toute première fois, c'est donc une entreprise privée qui a envoyé un vaisseau sur la Lune, mais c'est bien la NASA qui finance. Une alliance saluée par le directeur de l'agence, Bill Nelson.
Aujourd'hui, on a vu le pouvoir et les promesses des partenariats commerciaux de la NASA. Une nouvelle aventure pour la science, l'innovation et la prédominance américaine dans l'espace.
La course à la Lune est donc bien engagée avec une concurrence chinoise, japonaise et indienne très sérieuse. La capsule Odysseus est censée tester le terrain pour préparer l'arrivée de nouveaux astronautes américains dès 2025.
Vive Afrique aux États-Unis pour Europe 1. Un mot de football, l'OM a sauvé l'honneur des clubs français hier en 8e de finale de la Ligue Europa. Victoire 3-1 contre les Ukrainiens de Donetsk. Lens, Rennes et Toulouse, eux, sont éliminés.
Et c'est une première réussie donc pour Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Merci Nina Pavant. Dans un instant, la chronique de l'étranger.
Et on ne va pas sur la Lune, mais dans le club Culture d'Europe 1. Retrouvez Nicolas Carreau pour les livres et Omblin Roche pour l'actualité musicale. Bon début de journée avec nous sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Avec Lionel Gougelot, 7h42 précisément, dans 10 minutes, notez-le, l'édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brézé.
Oui, qui reviendra sur les 10 milliards d'euros d'économies prévus par le gouvernement. Ce sera juste après le Club Culture d'Europe 1 Matin, avec d'abord le livre du jour. Bonjour mon cher Nicolas.
Bonjour Lionel. Robinson Crusoe.
Ah bah oui.
Bah oui, c'est livre culte
un classique,
vendredi.
Bien sûr, un classique. Et la musique, bonjour Omblin Roche.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Un comeback ce matin, c'est bien ça?
Oui, l'icône du rock britannique, nouveau roi du swing, Rod Stewart, revient avec l'album Swing Fever.
A tout de suite, Omblin. Mais d'abord, comme tous les vendredis, à 7h40, la chronique de l'étranger, la chronique internationale d'Europe 1 nous emmène aujourd'hui en Ukraine ce matin. L'Ukraine qui va entrer demain samedi dans sa troisième année de guerre totale face à la Russie. Les premiers plans russes d'envahir la totalité du pays ont échoué. On se souvient du départ des troupes russes de la banlieue de Kiev que vous racontez Europe 1 en mars 2022. Le front long de 1000 km s'est déplacé dans l'est du pays, de la Crimée au Donbass, des régions que nous avons appris à connaître avec des noms comme des villes de Kharkiv, Kramatorsk, Bakhmout ou encore plus récemment Avdiivka. Bonjour Nicolas Tonev.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial depuis maintenant plus d'une semaine en Ukraine. Vous êtes donc depuis une semaine, je le disais, près du front, un front qui se trouve à environ 500 km de Kiev, 1000 km de Lviv, la grande ville de l'ouest près de la Pologne. Les missiles russes touchent aussi parfois ces villes, Nicolas, mais le fait est que le pays est bien coupé en deux. Hein.
Oui, avec les mois qui passent, le fossé se creuse. À l'ouest, il faut maintenant chercher du regard les ruines de la guerre. Dans le Donbass où je suis, il faut chercher du regard les bâtiments intacts. Alors l'explication, c'est évidemment moins de bombardements à l'ouest, mais aussi la reconstruction déjà en cours. Le fameux pont de la bataille d'Irpin en 2022 en banlieue de Kiev a déjà été remplacé. Des immeubles d'habitation que j'avais vus détruits il y a 2 ans ont été reconstruits, alors que c'est tout le contraire ici dans l'Est, hein, où la gangrène des destructions progresse avec le quota quotidien de ruines amenées par les missiles de la nuit. Et puis il y a aussi visuellement les horaires de couvre-feu différents qui changent tout. De minuit à 5h du matin dans l'ouest, de 21h à 5h dans l'est. Il y a donc une vie le soir, par exemple, dans les rues de Kiev, des restaurants ouverts tard, des bouchons, alors qu'ici, à 20h, tout est noir, tout est fermé pour laisser les gens rentrer chez eux avant l'heure fatidique.
Alors Nicolas, cette guerre divise aussi en raison du grand nombre de victimes. Les chiffres sont tenus secrets, mais côté ukrainien, comme côté russe d'ailleurs, les pertes sont, selon les estimations des services occidentaux, de plusieurs dizaines de milliers de morts. Ce conflit semble ne pas avoir d'issue. Quel est le sentiment dans la société ukrainienne aujourd'hui? Est-ce que le sacrifice des soldats pour le Donbass se justifie encore après l'élan patriotique du début?
Alors pour comprendre l'état d'esprit, écoutez ces deux femmes qui parlent toutes les deux du sacrifice des soldats pour en tirer des conclusions totalement différentes.
Il faut trouver un compromis. Il y a trop de morts. Rien ne justifie autant de pertes. Il y a un génocide de notre pays. Les Russes nous détruisent. Il nous faut la victoire, à n'importe quel prix, même à ce prix.
Alors cette deuxième dame est une mère de soldats tuée au combat. Elle est plus âgée, elle a vécu l'Union soviétique, elle ne veut plus entendre parler de la Russie. L'autre est beaucoup plus jeune, il y a une problématique d'âge dans cette guerre. En ce qui concerne les volontaires et les mobilisés, souvent au moins quarantenaires, hein, ce sont des vieux, entre guillemets, qui combattent. Les jeunes, hormis les soldats professionnels et les contractuels, sont plutôt épargnés jusqu'à présent par le recrutement. Il y a aussi un fossé riche-pauvre avec la corruption qui peut permettre d'échapper à la mobilisation. Tout cela contribue à la division de la société face au but de guerre.
Ouais, on l'imagine, effectivement. Enfin, depuis 2 ans, Nicolas, nous racontons sur Europe 1 hein, une guerre de tranchées et d'artilleurs, hein, une guerre de boue et de godillots, un peu à la 14-18, mais il s'y ajoute une dimension technologique, c'est celle des drones qui deviennent une véritable hantise hein, pour l'infanterie, Nicolas.
Oui, c'en est fini de cet adage du soldat dans les tranchées. Ici, creuse ton trou, plus il est profond, plus longtemps tu vivras. Le drone FPV, hein, c'est le drone suicide, celui qui va s'écraser sur sa cible, ne laisse aucune chance aux hommes, comme l'explique cet officier.
FPV drone, you can see directly.
Au drone FPV, tu vois directement ta cible dans le moindre recoin de la tranchée. Le drone FPV peut aller frapper dans un abri, aller voler dedans et exploser dedans pour tuer un maximum de gars.
Alors ces drones sont utilisés par centaines chaque jour sur le front, en plus de l'artillerie lourde par les Russes, pour compenser le manque de munitions côté ukrainien. Toute une chaîne de métiers d'ailleurs se met en place dans le pays, hein, du programmateur à l'ingénieur, au constructeur, aux écoles de dronistes, pour former littéralement des bataillons autour d'une arme devenue stratégique et incontournable en moins de 2 ans.
Merci, merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. On vous retrouvera évidemment toute la journée dans les éditions d'Europe 1, mais également demain à l'occasion donc de cette journée, date anniversaire de la guerre en Ukraine.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
7h47, Lionel, c'est l'heure de la page culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le classique du vendredi, avec
Nicolas Caro. Ce matin, Nicolas, vous nous emmenez loin, très loin, avec un grand roman d'aventure, Robinson Crusoe. Donc,
hein. De Daniel Defoe, nous sommes au XVIIe siècle en Angleterre, un jeune garçon de bonne famille. Robinson, donc, est tenté par l'aventure, mais son père lui dit... Voilà, j'ai de l'argent, donc tu en as. Si tu es sage, que tu restes tranquille, tu seras, sinon heureux, au moins à l'abri de besoins pendant toute ta vie. Mais si tu cèdes à ta curiosité, à ton penchant pour la prise de risque, alors je te prédis que tu seras accablé de malheur et que ça finira mal.
Et donc on sait maintenant que Robinson n'a pas écouté son père. Hein.
Et non, il s'embarque sur le premier navire venu, sauf qu'une tempête éclate, il se paye une belle frousse, l'équipage doit abandonner le navire, il s'en sort quand même miraculeusement, il rentre en Angleterre, l'un de ses amis vient le voir, lui dit maintenant faut arrêter, rentrer à la maison. Mais non, Robinson n'en démord pas. Il veut parcourir le monde, il s'embarque à nouveau, cette fois il est capturé par des pirates, il s'en sort encore, je vous passe les détails, mais il finit par s'installer au Brésil. Il exploite une petite plantation, ses affaires commencent à bien marcher, mais il s'ennuie encore. Alors il repart à l'aventure, le bateau, bien entendu c'est celui-là, fait naufrage et lui se retrouve seul sur son île déserte, la fameuse. La suite, ben, on connaît, il y reste 28 ans, il se construit sa petite vie sur l'île, il trouve d'abord une caverne, puis il se débrouille pour cultiver la terre, élever des chèvres même, il va aussi affronter toute une série de dangers. Ce doit être l'un des romans les plus célèbres du monde. Ouais. Daniel Defoe a créé un véritable mythe. Mais à partir de faits réels, le vrai Robinson s'appelait Alexander Selkirk. C'était un voyou, en fait, un voleur. Et Selkirk a pris la mer pour fuir la police. Naufrage. Et puis bon, il n'est pas resté aussi longtemps que Robinson sur son île. Seulement 3 ans. Oh. En rentrant chez lui, il a publié ses mémoires. Et voilà comment Daniel Defoe a eu l'idée de cette histoire.
Oui, c'était des vacances, donc, en fait.
Exactement.
Au départ, la réception du public, est-ce qu'elle a été bonne?
Plutôt, oui. Et régulièrement. Le roman revient dans les tops, on s'y penche à nouveau avec Vendredi ou La Vie Sauvage, ou des films comme Seul au Monde avec Tom Hanks, ouais. Ça marche encore et toujours, sans doute parce que Robinson représente l'évasion pure, mais avec un prix à payer quand même, la liberté totale, mais hors du monde et de la société.
Et toujours la même fascination, mais que l'on peut vivre par procuration, donc en lisant Robinson Crusoe de Willem Dafoe. Non, qu'est-ce que
Defoe.
Je raconte Defoe. Merci Nicolas Caro. Bon week-end. La musique à présent avec vous, Amblin Roche, et avec le retour aujourd'hui de Rod Stewart.
Oui, une icône britannique, Lionel, dont l'existence rime avec des mesures, des tournées gargantuesques, des shows à Las Vegas, une collection de voitures de sport, d'actes de mariage, de divorce aussi, Rod Stewart. C'est surtout plus de 100 millions de disques vendus et une voix éraillée magnifique qui sort du lot, le plus grand chanteur de soul blanche, disait James Brown.
Rod Stewart, une voix qui peut tout chanter, Amblin. Hein.
Absolument. Après avoir passé plusieurs décennies à tirer sur ses cordes vocales pour enregistrer des hymnes rock, il adopte l'attitude décontractée du crooner. Il y a 20 ans, Rod Stewart est au creux de la vague et celui qui va relancer sa carrière s'appelle Clive Davis, un faiseur de stars. Il a découvert Whitney Houston et il a remis le guitariste Santana sur les rails.
Mais
quand même.
Alors, quelle était l'idée de ce Clive Davis ?
Eh bien, de faire chanter à Rod Stewart des grands standards de jazz. Jackpot, le succès est aussi fulgurant qu'inattendu. It had to be. Voilà pour ce qu'on appelle le Great American Songbook. Il disait il y a quelques jours à la télévision américaine « Dieu m'a donné une voix qui me permet de chanter ce que je veux », on le disait, du rock et du swing aussi. Son nouvel album baptisé Swing Fever a été enregistré avec le pianiste anglais Jules Holland, spécialiste des big bands, Rod Stewart, entouré d'un grand orchestre. Un nouvel album et un nouvel hommage aux classiques américains des années 40, comme ici « Almost Like Being in Love ».
What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the old human race. Why, it's almost, almost like being in love.
Chanson connue pour avoir été interprétée par Nat King Cole ou par Frank Sinatra, Rod Stewart, 79 ans, le nouveau roi du swing avec l'album Swing Fever qui sort aujourd'hui. C'est un disque joyeux pour danser, chaussures de claquettes aux pieds. Rod Stewart sera en concert au Zénith de Paris le dimanche 30 juin. Unique date française annoncée pour le moment.
C'est bien noté. Merci Ombline Roche. Le Club Culture d'Europe 1 revient lundi à la même heure. Dans un instant, l'édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brézé du Figaro. Mais d'abord à 7h52, le journal permanent Nina Pavan.
L'Élysée rétropédale après avoir invité les soulèvements de la terre à participer au grand débat demain en ouverture du salon de l'agriculture. L'exécutif renonce face à la polémique. La FNSEA menace désormais de boycotter le rendez-vous. Manifestation de tracteurs en cours sur le périphérique parisien ce matin. La coordination rurale organise un convoi entre la porte de Saint-Cloud et la place Vauban. Faut-il faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne 2 ans après le début de la guerre contre la Russie? 43% des Français n'y sont pas favorables selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 5e jour de grève à la Tour Eiffel, la direction a fait hier une première proposition d'augmentation de salaire aux agents qui dénoncent avant tout le mauvais entretien de la dame de fer.
7h-9h, Europe 1 matin. 7h52, l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro.
Bonjour Alexis Brézé.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Alors, ça avait été annoncé en début de semaine par Bruno Le Maire, mais c'est hier que le gouvernement a donc acté le décret, par décret, les 10 milliards d'euros d'économies annoncés par le ministre de l'économie. Ça y est Alexis, on peut dire que c'est le tournant de la rigueur?
Le tournant de la rigueur?
C'est un gros mot.
Non, mais Lionel, c'est une plaisanterie. 10 milliards, c'est à peine 0,8% de la dépense publique. 0,8%. Et 2,3% des dépenses de l'État. Vous connaissez-vous une grande entreprise dont le dirigeant convoque une conférence de presse pour dire fièrement « Cette année, nous allons diminuer nos dépenses de 2% » Enfin, c'est tellement anodin que ça ne mérite même pas qu'on en parle. 10 milliards, tout le monde sait que c'est très insuffisant. Mais il se trouve que c'est à peu de choses près le maximum qu'on pouvait rectifier par décret. Au-delà, il aurait fallu passer par la loi et donc par un 49-3. Mmh. Et avant les élections européennes, on comprend que le gouvernement n'y tenait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un budget rectificatif après. Bon, en attendant, va donc pour les 10 milliards. Le chiffre est rond et, on l'espère, suffisamment symbolique pour rassurer les agences de notation dont la sanction nous pend au nez. Mais ça n'a rien à voir, disons-le, avec le tournant de la rigueur pris par exemple sous la pression des marchés en 1983, vous vous rappelez, après les folies économiques des premières années Mitterrand. Alors qu'entre nous soit dit, la situation financière actuelle n'est pas tellement meilleure. Hein. N'oublions pas que la dette publique a augmenté de presque 900 milliards d'euros depuis l'élection d'Emmanuel Macron pour atteindre le chiffre himalayesque de 112% du PIB. Heureusement que pour nous protéger, il y a l'euro. Enfin bref, les mesures claironnées par Bruno Le Maire 2 mois après qu'il a fait voter au 49-3 un budget qu'on qualifie pudiquement d'optimiste pour ne pas dire insincère, ces mesures ne relèvent pas de la rigueur, mais tout au plus de la technique du bon vieux coup de rabot, bien classique, comme les technocrates de Bercy savent le passer quand ils n'ont pas d'autre solution.
Et un coup de rabot, est-ce que ça sert à quelque chose, Alexis?
Ça a les petits mérites et les grands inconvénients du coup de rabot. Côté mérite, le rabot, ça fonctionne. Tout à coup, on trouve enfin quelques vraies économies, alors que jusqu'ici, on ne parvenait pas à dégager un malheureux milliard. Et puis, ça permet d'aller très vite. Les annulations de crédit sont effectives immédiatement et c'est déjà ça. Côté inconvénient, c'est une politique complètement inintelligente. On coupe un peu partout, dans tous les ministères, sans en choisir aucun, et les économies saupoudrées tombent là où elles peuvent. Alors tout le monde est mécontent, ce qui n'est pas bien grave. Mais souvent, parce que c'est plus facile, on choisit de s'attaquer aux dépenses d'investissement plutôt qu'aux dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est nettement plus ennuyeux.
Mais alors on fait quoi, Alexis? Les économies budgétaires, tout le monde en parle, mais personne ne dit où les faire précisément.
Je vais vous donner quelques pistes, Lionel, si vous voulez bien. D'abord, il faut faire entrer les dépenses sociales dans le périmètre. Elles représentent la moitié de la dépense publique et on prétend ne pas y toucher. Le modèle social français est à la fois coûteux et désincitatif vis-à-vis du travail. C'est irresponsable de le sanctuariser. Il faut s'intéresser aussi aux fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. À leurs effectifs, bien sûr, mais aussi aux pensions de retraite. qui, si elles étaient alignées sur celles du privé, permettraient d'économiser plus de 10 milliards par an. Il faut agir sur les coûts de production des services publics. L'hôpital, l'école, du fait de l'enchevêtrement des compétences et des strates publiques, sont, chacun le sait, suradministrés. On doit alléger tout ça. Il faut externaliser un certain nombre de missions que le privé ferait aussi bien que le public et moins cher. Et puis, il faut oser prononcer à nouveau le mot privatisation. Bref, il faut faire tout le contraire de la politique du chien crevé au fil de l'eau qui est celle de nos gouvernements depuis des années. Vous savez, les coups de rabot peuvent faire illusion un moment, mais pour réformer vraiment la dépense publique, il faut une volonté politique, une vision stratégique et puis trois qualités. Du courage et encore du courage.
Merci l'édito politique d'Alexis Brézé du Figaro. À l'une du Figaro ce matin, l'Ukraine face au défi d'une troisième année de guerre.
7h57, on souhaite la bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Nous sommes le vendredi 23 février.
Dans un instant, la météo, ça sera juste avant le journal. À tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
La météo, Marlène Durel, des averses et les premières giboulées de la saison.
Et oui, après les perturbations, ciel de traîne, résultat, un ciel qui va être changeant avec quelquefois des rayons de soleil qui peuvent apparaître. Et puis ces averses qui sont déjà présentes le long de la Manche, de l'Atlantique également. Elles rentrent un peu plus en direction du Massif central et elles peuvent s'accompagner, vous avez dit giboulées, effectivement, elles sont là avant l'heure. Elles peuvent s'accompagner d'un petit coup de tonnerre ou encore de grésil. Côté température, on se rapproche des moyennes saisonnières, comprises entre 7 et 16 degrés aujourd'hui, avec 9 degrés dans la capitale.
Merci Marlène Duré. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellente journée. Nous sommes le vendredi 23 février. Tout de suite, le journal de Fanny Marceau. Vous écoutez Europe 1, il est 8h.
Le malaise et la crise qu'on connaît en agriculture méritent certainement plus de respect. Et la colère des agriculteurs est tellement grande que je pense qu'on aura du mal à revenir au débat avec le président de la République.
Le malaise est fait, dit Hervé Lapie, le secrétaire général de la FNSEA. Le président du syndicat va plus loin encore. Il évoque une mascarade. Le monde agricole ne décolère pas après l'invitation finalement annulée des soulèvements de la terre au grand débat d'Emmanuel Macron. Dès le début de ce journal européen, en direct aux côtés des agriculteurs qui vont manifester à Paris aujourd'hui. Les premières réactions dans un instant. L'imam de Bagnols-sur-Cèze, Majoubi, expulsé hier soir vers la Tunisie, moins de 12 heures après son interpellation pour propos haineux et anti-France. Dans ce journal également, l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, une mauvaise idée pour 43% des Français, alors que le pays entre dans sa troisième année de guerre demain. Et puis, robe de soirée, smoking et paillettes, la 49e cérémonie des Césars sur la scène de l'Olympia et sur Europe 1 en direct ce soir. On vous emmènera dans les coulisses de l'événement en fin de journal. Et puis, à 8h10, Romain Desarbres recevra Manon Aubry, l'eurodéputé de la France insoumise, pour la grande interview Europe 1 CNews.
Europe 1.
8h, le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Des dizaines de tracteurs sur le périphérique parisien ce matin, ce qui allonge les embouteillages. 110 km de bouchons cumulés en Ile-de-France aujourd'hui. Les agriculteurs en route pour la porte de Saint-Cloud où vous vous trouvez. Martin Lange pour Europe 1, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Les membres de la coordination rurale vont manifester dans la capitale ce matin, remontés comme des coucous, Martin, après l'invitation d'Emmanuel Macron au soulèvement de la terre qui a finalement été annulée.
Oui Fanny, les tracteurs sont encore sur le périphérique, pas encore arrivés ici, porte de Saint-Cloud, mais un très important dispositif de sécurité les attend. De très nombreux camions de CRS, ils sont positionnés dans les rues autour de la place de la porte Saint-Cloud, plusieurs dizaines de camions, car le ton est monté hier, vous le disiez, avec les représentants du monde agricole, après que l'Élysée ait invité les soulèvements de la terre au débat demain avec Emmanuel Macron pour l'ouverture du salon de l'agriculture. Une provocation, se sont insurgés les représentants de la coordination rurale. Je viens de discuter avec l'un d'entre eux au téléphone. Alors depuis, vous l'avez dit, l'Élysée a rétro-pédalé, mais le mal est fait. Et certains agriculteurs se demandent même si ce débat avec le président de la République a encore un sens. Ils comptent en tout cas sur cette manifestation aujourd'hui pour montrer leur détermination. Les tracteurs devraient commencer à arriver dans quelques minutes. Le départ du cortège est prévu à 10h pétante, direction le centre de la capitale, et notamment la place Vauban, le terminus de cette mobilisation, juste devant les Invalides.
Merci Martin Lange en direct de la porte de Saint-Cloud à Paris. Elle est maintenant direction la porte de Versailles où il y a déjà de l'activité ce matin. Une autre manifestation de la FNSEA et des jeunes agriculteurs est attendue dans la journée. Guillaume Dominguez, vous êtes sur place pour Europe 1. Comment on digère là-bas le couac élyséen ?
Eh bien ici, porte de Versailles, où le balai des bétaillères est incessant depuis 6 heures ce matin, la polémique autour du grand débat d'Emmanuel Macron est sur toutes les lèvres. Certains voient d'un bon oeil la venue du président, d'autres beaucoup moins. Mais pour Daniel Danflou, éleveur de bovins dans le Gers, la présence de la FNSEA, premier syndicat des agriculteurs, à ce grand rendez-vous ne se discute pas.
Le premier syndicat français, il faut qu'il vienne. Déjà, pour négocier un peu, s'il n'y a pas le premier syndicat, c'est compliqué quand même. Il faut qu'il tende l'oreille, qu'il fasse respecter un peu la loi Egalim, je dirais. Et après, on a la MHE, nous, dans le sud-ouest, on a une maladie bovine. Donc, il y a eu des pertes, il y a eu tout ça. Donc, ils ont dit qu'ils allaient donner des aides, on va voir. On attend un peu de le voir et de voir ce qu'il va nous dire.
Pour Daniel, même s'il ne lui garantit pas forcément un bon accueil, le président de la République doit faire des annonces. En revanche, sur la présence de l'ONG des soulèvements de la Terre au grand débat, sa réponse est claire, on n'a pas besoin d'eux.
Guillaume Dominguez en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles pour Europe 1.
Ah, effectivement, à cette invitation au soulèvement de la Terre, l'exécutif doit s'en mordre les doigts ce matin.
Mais oui, elle rajoute de la colère à la colère. Elle vient saccager des semaines de travail et d'efforts du gouvernement pour apaiser les tensions. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Chef du service économie d'Europe 1. Baptiste, Gabriel Attal l'avait dit lui-même lors de ses dernières annonces mercredi. Jamais autant d'avancées n'auront été mises en œuvre pour nos agriculteurs en si peu de temps.
Oui, il faut reconnaître que l'exécutif s'est sérieusement saisi du dossier. Ça va au-delà des 400 millions d'euros qui ont été mis sur la table. Il n'a pas hésité à reculer sur l'augmentation de la taxe sur le GNR ou à suspendre le plan Ecophyto. Il a aussi obtenu des concessions de Bruxelles, ce n'était pas forcément gagné. La dérogation sur les 4% de terres en jachère, les mesures de sauvegarde sur les importations ukrainiennes. Et puis concernant le volet simplification, revendication centrale des agriculteurs, 63 arrêtés ont été modifiés en moins d'un mois. On n'a jamais vu ça. Le texte sur les curages des fossés, par exemple, il a déjà été publié.
Mais alors, qu'est-ce qui coince, Baptiste ?
D'abord, il y a les lenteurs, parce que des tas de décrets ont été signés, ça c'est vrai, mais il faut encore que les administrations s'en saisissent, qu'elles les appliquent, qu'elles changent de logiciel, en gros. Ensuite, il reste un gros morceau, le revenu des agriculteurs. Gabriel Attal a annoncé une nouvelle loi Egalim pour l'économiste Philippe Chalmin. C'est peine perdue.
Les prix agricoles, ce sont des prix européens, mais aussi mondiaux. Vendre Egalim comme un outil de garantie du revenu agricole, c'est de l'escroquerie intellectuelle.
Oui. Et puis cette crise agricole, c'est une crise existentielle et structurelle. Bon, la crise existentielle, l'épisode d'hier soir avec les soulèvements de la Terre, ça ne va sûrement rien arranger. Mmh. Et puis la crise structurelle, c'est le fond de l'affaire et c'est une fatalité. Dans un marché mondialisé, les petites exploitations sont vouées à disparaître, remplacées par les grandes, qui elles ont les reins solides pour se transformer, pour répondre aux normes. Et pour absorber les chocs.
Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
L'actualité ce matin, c'est aussi l'expulsion hier soir de Majoub Majoubi, l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.
Moins de 12 heures après son interpellation, il a été renvoyé en Tunisie. L'arrêté ministériel d'expulsion stipule qu'il a véhiculé une conception, je cite, littérale, rétrograde, intolérante et violente de l'islam. Il avait notamment qualifié le drapeau tricolore de satanique lors d'un prêche. C'est la démonstration que la loi immigration rend la France plus forte, s'est félicité le ministre de l'Intérieur.
8 heures bientôt, 7 minutes, 2 ans de bombardement et de détresse. La guerre en Ukraine entre demain dans sa troisième année de guerre.
Faute de soutien financier, bloqué au Congrès, les États-Unis annoncent ce matin des sanctions contre plus de 500 entités liées à la machine de guerre russe. Mais ce qu'il faut à Kiev, ce sont surtout des munitions d'urgence et en énorme quantité, a martelé Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne au 27 hier soir.
Car le front ukrainien est fragile, 1000 km de combat, des villes qui ne sont plus que des champs de ruines, écrasées par l'artillerie et les drones russes.
Exemple à Tchassiv Yar, où subsiste un petit millier d'habitants ravitaillés par des volontaires au péril de leur vie. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff, les a suivis.
Un seul accès vers Tchassiv Yar, c'est 10 km de pistes boueuses sous le feu à travers champs.
Il y a des drones. Les mitrailleurs tirent dessus.
La ville, vite!
Il nous faut la ville. Ils les descendent. On peut se prendre des éclats là.
Bova et Olia accélèrent. Tchassiv Yar déjà?
Oui, ça y est, regarde. La ville est détruite à 80%.
Sur des centaines de mètres et les dizaines d'immeubles sont tous touchés. Dans ce chaos, il faut finir à pied, vite, jusqu'à l'abri.
Ici, les Russes nous encerclent presque. Ils sont à 4-5 km des deux côtés.
Nous rentrons à l'intérieur du sous-sol, 5 personnes seulement devant Olia.
La nourriture est là ?
Là.
Oui, elle est là.
Je viens vérifier que c'est arrivé.
C'est reçu, oui.
On s'est endormi, on s'est réveillé, c'est déjà bien. En bonne santé, pour avancer.
Mission accomplie. Ces habitants, parmi les derniers, tiennent le coup. Le soleil s'efface. Les chiens y reprennent le pouvoir. Il faut repartir. Les artilleurs russes voient loin et de mieux en mieux. Atcha Sifiar, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et pour Kiev, la planche de salut, c'est l'Union européenne. L'entrée en Ukraine, de l'Ukraine dans l'Union européenne est-elle une mauvaise chose pour 43% des Français? C'est ce que révèle un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche.
Et pour terminer, la 49e cérémonie des Césars sur la scène de l'Olympia et en direct ce soir sur Europe 1 et Canal+.
Grande fête du cinéma qui récompensera les carrières de Christopher Nolan et Agnès Jaoui, célébrera aussi deux chefs-d'œuvre, Anatomie d'une chute et Le règne animal. Pour que la célébration soit parfaite, on s'active en coulisses, Marie Jiquel.
Les lettres rouges mythiques de l'Olympia annonçant la cérémonie scintille déjà, mais à l'intérieur on installe le tapis rouge, les Césars attendent d'être gravés et la quinzaine de caméras prêtes à saisir toutes les réactions arpentent la salle. Franck Broca réalise l'émission des Césars.
Il y a des cascades et on est vigilant à tout ce qui peut se passer en émotion durant toute la soirée. Il y a plein de nouveaux talents. J'ai décidé d'axer sur beaucoup de réactions, de sourires.
Des surprises promises aussi par la présidente de cette 49e édition, Valérie Lemaire. Et pour l'épauler des maîtres et maîtresses de cérémonie, Benoît Magimel, Dany Boon, Juliette Binoche et Marie-Christine Barrault.
Je renoue avec la responsabilité de remettre trois Césars. Donc je vois ça de l'intérieur et ça m'amuse beaucoup. J'adore Valérie Lemercier. Évidemment, la barre est très haute parce qu'on va arriver juste après Valérie Lemercier.
Ok, attention s'il vous plaît pour musique.
Émotion bien sûr au programme. On annonce un hommage à Jane Birkin et une potentielle prise de parole très attendue, celle de Judith Godrèche.
Marie Jiquel.
Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. Dans un instant, Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise et tête de liste aux prochaines élections européennes. Elle est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews au micro de Romain Desarbres.
Europe 1, 7h, 9h.
Lionel Gougelot.
8h13 sur Europe 1, Romain Desarbres reçoit Manon Aubry, députée au Parlement européen et tête de liste La France insoumise aux élections européennes.
Bonjour Manon Aubry.
Bonjour Romain Desarbres.
Vous êtes l'invité de la grande interview ce matin sur CNews Europe 1, tête de liste La France Insoumise aux européennes et eurodéputée. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous entendre déjà, avant de parler économie et agriculture, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir. L'imam Majoub Majoubi, tunisien, qui a tenu des propos anti-français et qui a tenu des propos encourageant les discriminations à l'égard des femmes, les tensions avec la communauté juive et la radicalisation djihadiste, a été expulsé hier soir vers son pays, la Tunisie, 12 heures seulement après son arrestation. Est-ce que vous êtes satisfaite ?
Sur le fond, j'ai absolument aucun point d'accord avec cet imam. J'ai jamais défendu les intégristes religieux. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre pays. Gérard Darmanin.
Il a été sans le droit
vraisemblablement,
a été respecté.
Vraisemblablement, le contradictoire n'a pas été respecté. C'est-à-dire que, comme dans toute procédure judiciaire, vous entendez la personne qui est mise en cause. C'est le cadre normal de l'état de droit et ça ne présage pas du fait que, à la fin, la personne soit expulsée ou non. C'est juste un cadre qui s'appelle l'état de droit. Et vous savez, Gérard Darmanin est assez coutumier des coups de communication où il annonce des choses et après ça ne tient pas en procédure administrative. On se souvient qu'il avait annoncé de manière tonitruante la dissolution des soulèvements de la terre et qu'ensuite ça avait été cassé en justice parce que précisément ça n'avait pas respecté les règles de l'état de droit. J'y suis personnellement très attachée, je pense que c'est la garantie du fonctionnement de notre République.
Tout le monde est attaché à l'état de droit. Mais est-ce que vous n'avez pas été choqué quand vous avez entendu les propos tenus par cet individu ?
Bien sûr que j'ai été choqué. Bien sûr que j'ai
été. Est-ce que vous trouvez qu'il a sa place en France ?
Ça, ce sera à la justice d'en décider. Mais en tout cas, ces propos-là n'ont pas leur place en France.
Oui, mais cet individu qui les tient, est-ce qu'il a sa place en France ? On a le choix puisqu'il n'est pas français.
Mais vous savez, le droit permet déjà d'expulser des gens quand ils sont des menaces, des dangers graves pour l'ordre public. Le droit, et d'ailleurs qui préexiste bien avant la loi immigration. Mais maintenant, il ne faut pas être dupe de l'opération de communication qui est faite de Gérard Darmanin, où il prend un fait divers et il en fait une énorme opération. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, ces propos ne soient pas tenus par des imams et par qui que ce soit, d'ailleurs, que l'on respecte les procédures de l'état de droit dans notre pays et que l'on puisse garantir le bon fonctionnement de notre démocratie, tout simplement.
Manon Aubry, au sujet de l'immigration, dans le magazine Paris Match, Bruno Retailleau formule la proposition d'un référendum avec révision constitutionnelle.
Pas la première fois qu'il le fait.
Effectivement. Est-ce qu'il faut demander leur avis aux Français sur ce sujet, l'immigration ?
On a eu...
Ou est-ce qu'il faut avoir peur de la démocratie ?
J'ai jamais peur de la démocratie et on y reviendra après. Je pense qu'il y a un sujet qui mérite la démocratie et le vote des Français, qui est l'imposition scandaleuse d'un nouveau pacte d'austérité et de coupes sans précédent dans les services publics. On y reviendra. Mais je vois bien ce que font la droite et l'extrême droite qui agitent sans cesse le sujet migratoire du matin au soir. On vient d'avoir une nouvelle loi immigration qui a été passée avec les voix de la droite et de l'extrême droite, qui fait suite à... Il y a eu une loi immigration à peu près tous les ans sur les 20 dernières années. Depuis que je suis née, j'ai vu assister à une loi immigration qui n'a souvent d'ailleurs pas changé grand-chose dans le pays. Mais voilà, quand les prix explosent, quand les gens galèrent à faire leurs courses, quand on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on va agiter ce totem du migrant qui serait la cause d'absolument tous les problèmes, alors que souvent ces lois sont prises sans être appliquées. Vous le voyez, je pense qu'il faut être un peu rationnel dans ce débat politique-là.
Le président du RN, Jordan Bardella, à votre place, mercredi, a affirmé vouloir des états généraux de l'immigration. Il a dit que l'immigration allait être le sujet essentiel des Européennes. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce point de vue ?
Je pense à tous les gens là qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui regardent peut-être leur télé. Et je pense que leur première préoccupation, c'est déjà de pouvoir faire leurs courses. Ils ont vu plus 20% d'augmentation des prix alimentaires sur un an. Vous vous rendez compte ? 10 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les queues devant les files de distribution alimentaire qui s'allongent. C'est ça le premier enjeu aujourd'hui des Français et sur lequel moi je me bats. Vous diffusez des images du salon d'agriculture, la colère du monde agricole qui exprime quelque chose, celui de la concurrence déloyale, celui d'une rémunération qui n'est pas suffisante pour les agriculteurs. Moi, c'est à ça que j'ai envie de répondre et je pense que ça reste la première préoccupation des Français avec la survie de nos services publics plutôt que d'agiter toujours les mêmes totems.
Alors justement, le salon de l'agriculture, je voulais vous entendre déjà sur le débat organisé par l'Élysée demain à ce salon de l'agriculture. L'Élysée qui a invité dans un premier temps les soulèvements de la terre. Est-ce que les soulèvements de la terre avaient, selon vous, leur place dans ce débat ? Ils ont été invités, puis, entre guillemets, désinvités.
D'abord, le fait que l'Élysée les invite, après avoir tenté de les dissoudre il y a quelques mois, vous m'excuserez, mais c'est un peu cocasse quand même. Et puis, j'ai quand même une impression plus globale de grand retour du grand débat. Vous vous souvenez ce qui a été organisé après le mouvement des Gilets jaunes ? Il y a eu un certain nombre, d'ailleurs, de demandes qui ont été faites dans le cadre de ces grands débats et puis qui a été remisé directement aux oubliettes. C'est le réflexe d'Emmanuel Macron d'organiser ce type de grand débat faute de réponses politiques concrètes aux demandes des agriculteurs, qui sont quoi ? C'est un, faire face à la concurrence déloyale et mettre fin aux accords de libre-échange. Et la semaine prochaine, au Parlement européen, nous allons voter pas un, mais deux nouveaux accords de libre-échange. Et mon groupe au Parlement européen est le seul à s'y opposer. Et la deuxième revendication des agriculteurs, c'est une juste rémunération, vivre de son travail, d'avoir des prix planchers. Et ça aussi, le gouvernement le refuse et a voté contre notre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, les grands discours, le grand blabla, franchement, il y en a marre, ça suffit.
La colère du monde agricole n'est pas éteinte. Est-ce que vous craignez qu'elle reprenne de plus belle ?
Tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, bien sûr qu'elle risque de reprendre de plus belle. On l'a vu, il y a des tracteurs qui sont en route vers Paris et la colère va gronder dans les allées du salon de l'agriculture tant que l'on considérera, et en particulier les agro-industries, considéreront les agriculteurs comme des vaches à lait. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous avez, nous, quand on fait nos courses, plus 20% d'augmentation des prix, et de l'autre côté, des salaires, des rémunérations qui baissent pour les agriculteurs, et au milieu, ce qui explose, c'est la marge des agro-industries, plus 70%. Ça, c'est pas normal. Il est temps d'avoir de la contrainte, il est temps d'avoir des règles qui permettent une juste rémunération, et il est temps de mettre fin aux accords de libre-échange qui soumettent à une concurrence déloyale de partout dans le monde, mais aussi directement depuis l'Ukraine, qui produit à bas coût, qui produit avec des pesticides qui sont autorisés là-bas et interdits ici. Et cette concurrence déloyale, il faut y mettre un terme.
Alors justement, les agriculteurs veulent vivre décemment de leur travail. Ils sont le symbole de cette France des oubliés, des laissés pour compte. Et pour ça, pour vivre de son travail, il faut produire. Il faut produire suffisamment. Et vous, vous défendez des surcontraintes écologiques. Ce n'est pas un peu contradictoire ?
On ne défend pas les surcontraintes écologiques. Ce qu'on défend, c'est la capacité des agriculteurs à pouvoir produire y compris dans les 10, 20, 30, 40, 50 années qui arrivent. Parce que si vous détruisez les sols, si vous détruisez la santé de nos agriculteurs, c'est notre capacité à produire qui sera remise en cause dans les années qui viennent. La première question qui est posée, c'est d'avoir les mêmes règles pour tous. Quand le Parlement européen a voté, il y a quelques mois de cela, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, là aussi, mon groupe au Parlement européen a été le seul à ne pas le soutenir. Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici, notamment du lait. Je pense à tous nos producteurs laitiers qui vont être soumis à cette concurrence déloyale avec un pesticide qui est autorisé là-bas, qui s'appelle l'atrazine et qui est interdit dans l'Union européenne, avec des salaires qui sont aussi plus faibles. C'est le vrai aussi pour les deux accords qui sont signés la semaine prochaine avec le Chili et avec le Kenya. C'est ça le cœur du problème. C'est ça aujourd'hui la concurrence déloyale à laquelle sont exposés les agriculteurs en France et en Europe. Et si demain, on avait les mêmes règles pour tout le monde, alors nos agriculteurs seraient protégés. C'est cette folie du libre-échange à laquelle il faut mettre un terme. Et de ce point de vue-là, pardon, mais j'en ai marre de tous ces hypocrites qui vont venir au salon de l'agriculture, là, main sur le cœur, et dire « Oui, on est à vos côtés, les agriculteurs. » Et la semaine prochaine, Romain Desarbres, vous vous rendez compte, votez, signez deux nouveaux accords de libre-échange. Au bout d'un moment, ça suffit.
La grande interview de Manon Aubry, tête de liste France Insoumise aux Européennes et eurodéputée. L'économie. La France doit faire 10 milliards d'euros d'économie cette année. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire dimanche dernier. Est-ce que vous partagez déjà sur l'inquiétude de Bruno Le Maire et l'urgence qu'il y a à faire des économies en France ?
C'est une saignée sociale sans précédent. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Faire des économies de 10 milliards d'euros, dont une bonne partie, plus de 700 millions d'euros sur le budget de l'éducation nationale. C'est la suppression de 11 000 postes, notamment d'enseignants. On n'a déjà pas suffisamment d'enseignants pour avoir un enseignant devant chaque classe. Ça a été le cas à la rentrée dernière. On s'est moqué littéralement du monde éducatif, de l'enseignement, avec la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Je pense qu'aujourd'hui, cette saignée sociale, mais aussi écologique, puisqu'on prend dans le budget de la rénovation thermique des logements, ce sont les plus pauvres qui vont en payer les premiers le coût. Et tout ça ne vient pas de nulle part. Je veux lancer l'alerte très solennellement. 10 milliards d'euros, c'est rien à côté de ce qui nous attend, puisque en vertu des nouvelles règles européennes qui sont en train d'être adoptées, ce sera 24 milliards d'euros qu'il faudra faire d'économies par an. Et tout ça, c'est discuté dans le dos des Français. Ce nouveau pacte d'austérité européen, moi, je pense qu'il faudrait un débat, un grand débat, tiens, puisque Emmanuel Macron aime les grands débats. Et je propose qu'on organise un référendum sur ce nouveau pacte d'austérité européen. Emmanuel Macron ne devrait pas avoir peur de la démocratie, il devrait laisser les Français trancher pour ou contre le sacrifice de nos services publics, de notre protection
sociale.
C'est
une annonce que vous faites ce matin dans la matinale de CNews et d'Europe 1. Vous réclamez un référendum sur ce que vous appelez cette cure d'austérité. Pour vous, c'est de l'austérité.
Sur le pacte d'austérité européen, oui, puisqu'on n'a jamais eu une cure d'austérité aussi importante. Rendez-vous bien compte, 24 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de la suppression de 700 000 postes d'infirmiers par an. C'est ça qu'on va demander alors qu'on a des gens qui meurent sur des brancards dans nos urgences parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens dans l'hôpital public pour les prendre en charge. Alors qu'on n'a déjà pas suffisamment d'enseignants devant chaque classe. Alors qu'on a déjà une protection sociale, par exemple. Les gens qui vont aller acheter des médicaments, même s'ils sont prescrits par le médecin, qui vont aller à leur consultation médicale, chaque personne va payer à chaque fois 1 euro de sa poche pour chaque boîte de médicaments. Et vous voyez, cette austérité-là, on va la faire payer aux Français, et en particulier aux Français qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle, qui n'ont pas les moyens d'avoir une protection sociale privée. Et donc, c'est une folie, c'est pour ça que nous demandons un référendum.
Manon Aubry, vous parlez d'austérité, mais la dette en France n'arrête pas de grossir. On est au bord de la banqueroute, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et là, on fait juste un petit plan d'économie de 10 milliards.
Vous trouvez que notre pays a fait faillite ces dernières années ? Ces règles budgétaires, en l'occurrence, elles ont été suspendues depuis les années 2000. C'est pas moi qui les 2020, pardon. C'est pas moi qui les ai suspendues. C'est l'Union européenne qui a pris cette décision au moment de la crise du Covid. Même les libéraux se sont rendus compte que ces règles qui avaient été inventées sur un coin de table, qui n'avaient aucune valeur économique, n'avaient aucun sens. Et puis, pardon, l'État et l'Union européenne seraient les seuls agents économiques qui, quand à la fin du mois, serait dans le rouge, se priverait de revenus, parce qu'à aucun moment, on demande de mettre à contribution les plus riches et les entreprises multinationales. Je rappelle que les milliardaires de notre pays ont accumulé 240 milliards d'euros en l'espace de 3 ans. C'est l'équivalent d'un chèque de 3400 euros pour chaque Français. Et que, par exemple, les entreprises du CAC 40 ont fait à la fois des bénéfices et des dividendes records. Pourquoi on s'attaquerait aux Français qui galèrent à boucler leur fin de mois et pas aux 20 milliards d'euros de bénéfices qu'a engrangé Total l'an dernier? Vous voyez, il y a une injustice profonde dans notre pays. Il n'y a pas de raison qu'on aille pas chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches et des entreprises multinationales.
Manon Aubry, je rappelle que vous êtes tête de liste France Insoumise aux européennes, crédité d'environ 8% des voix dans les sondages, des intentions de vote dans les sondages. Face à vous, il y a un rouleau compresseur, Jordan Bardella, qui est autour de 30% d'intentions de vote. Clairement, comment est-ce que vous comptez faire la différence sur les sujets importants pour les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'agriculture? Comment vous comptez, j'allais dire, remonter la pente dans les sondages?
D'abord, Jordan Bardella, on ne l'a pas beaucoup vu au Parlement européen. En l'espace de 5 ans, il a déposé 21 amendements. Quand j'en ai déposé 3500 pour des gens qui défendent la valeur travail, on repassera. Et puis sur le fond, quels ont été les votes du Rassemblement national au Parlement européen? C'est vote contre le droit à l'avortement, vote contre les travailleurs ubérisés, un statut pour les travailleurs des plateformes. Nous, on a organisé une action hier au Parlement européen parce que le Rassemblement national, comme Emmanuel Macron, sont en train de bloquer un statut protecteur pour tous les travailleurs Uber, Deliveroo qui sont exploités, qui n'ont pas de protection sociale. Voilà les combats concrets que nous menons au Parlement européen, quand en réalité, ils sont dans le même camp d'Emmanuel Macron quand il s'agit de s'opposer aux droits des travailleurs ou quand il s'agit de s'opposer, par exemple, à la taxation des super-profits. Donc on va mener la bataille pour montrer leur vrai bilan, mais surtout pour recréer un espoir à gauche, une alternative, un rassemblement aussi, avec tous les orphelins de la NUPES, et je veux lancer un appel.
Il va y avoir des ralliements ?
Oui, les adhérents de Génération ont voté notamment pour se soutenir notre liste.
Benoît Hamon, donc le groupe.
Je ne sais pas pour Benoît Hamon et je suis respectueuse du fonctionnement et de l'organisation de Génération, mais ce que je veux faire au-delà de ça, c'est lancer un appel très solennel à toutes celles et à tous ceux qui, il y a un an et demi, ont cru dans l'espoir, le programme de la NUPES. Et je veux leur dire, oui, il y a une alternative dans notre pays au duo Macron-Bardella. Oui, il est possible de défendre plus de redistribution des richesses dans notre pays. Oui, la pauvreté et l'inflation ne sont pas une fatalité et nous allons prendre ces sujets à bras-le-corps et proposer une alternative avec un rassemblement le plus large possible. On lance notre campagne le 16 mars à Villepinte. Je vous donne rendez-vous.
C'était la grande interview de Manon Aubry. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et dans le studio de la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup, tête de liste France Insoumise aux Européennes et eurodéputée. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Merci Romain Desarbres, merci Manon Aubry. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre le journal permanent, la chronique de Catherine Ney et dans un gros quart d'heure maintenant, la revue de presse de Jacques Seret. À tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
8h31 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamar.
Et on prend tout de suite la direction de la Porte de Saint-Cloud, Martin Lange, en direct avec nous. Les agriculteurs sont arrivés à Paris, Martin.
Oui Christophe, une quarantaine de tracteurs pour l'instant, ils sont stationnés avenue de Versailles à quelques mètres de la Porte de Saint-Cloud. Vous entendez peut-être les klaxons derrière moi, bien qu'ils se soient un petit peu calmés ces dernières secondes. Alors ces agriculteurs, ils viennent d'un peu partout en France, hein, Bourgogne, Franche-Comté, Seine-et-Marne. Certains ont roulé toute la nuit, les yeux rougis par la fatigue. Ils partagent en ce moment un petit déjeuner et au cœur des discussions, il y a bien sûr le débat demain avec Emmanuel Macron pour l'ouverture du salon de l'agriculture. Faut-il y participer alors que l'Elysée avait prévu d'y inviter les soulèvements de la terre? Alors le débat, il n'est pas encore tranché ici. Pour certains, il faut y aller. Pour d'autres, la provocation est trop forte. Mais ils sont tous très remontés. Ce matin, ils reprendront la route vers 10h, direction la place Vauban, devant les Invalides. Ça sera la fin de leur cortège.
Martin Lange, en direct, dans le grondement des tracteurs réunis Porte de Saint-Cloud, un salon décidément sous tension. On attend la décision de la FNSEA quant à sa participation au grand débat organisé demain par Emmanuel Macron. La colère du principal syndicat agricole est à l'origine du volte-face de l'Élysée hier soir. Le chef de l'État avait eu l'idée d'inviter les soulèvements de la terre, mouvement très controversé, à participer au débat. Il a finalement renoncé face à la levée de boucliers du monde agricole. Et parmi les réactions politiques, ce commentaire de Manon Aubry ce matin sur Europe 1 et CNews. invité les soulèvements de la terre après avoir tenté d'obtenir leur dissolution. C'est assez cocasse, souligne la tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. Triste anniversaire à venir en Ukraine. Le conflit entrera demain dans sa troisième année. Situation pratiquement figée sur le front. Cela n'empêche pas la Russie de mener une intense campagne de bombardement, frappe auquel Kiev ne peut répondre faute de munitions. Il faut augmenter nos livraisons en urgence. Message du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, aux 27 pays membres. Un conflit qui complique les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une entrée considérée comme une mauvaise chose pour 43% des Français. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le JDD.
Merci Christophe Lamarre. La météo, Marlène Duré. Une météo plus fraîche avec pas mal d'averses à l'ouest du pays.
Et oui, le ciel de traîne continue de se généraliser. Donc ciel changeant qui peut offrir quelques rayons de soleil, mais aussi pas mal d'averses, particulièrement nombreuses en ce moment le long de la Manche, de la Bretagne en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central aussi. Ces averses vont avoir tendance à s'étendre dans le pays. Elles peuvent s'accompagner de coups de tonnerre ou de grésil. Ce sont des giboulées. À noter que la Vendée et les Deux-Sèvres sont toujours en vigilance orange pour les crues. Les vents restent sensibles avec les plus fortes rafales du côté du Sud-Aquitaine. On attend des pointes à 90 km à l'heure. Et pour trouver du temps stable, lumineux, parfois avec de belles éclaircies, eh bien, on ira du côté du pourtour du Golfe du Lion, de la Provence, des régions alpines, et puis en longeant comme ça les frontières de l'Est.
Un coup d'œil sur les températures cet après-midi. 7 degrés dans le Limousin contre 16 dans les Alpes-Maritimes.
En baisse, mais proche des saisons, des températures de saison, oui. 7 du côté de Guéret ou Limoges, par exemple. Il fera 8 à Périgueux, Quimper, Rouen. 9 à Nantes et à Paris, ainsi qu'à Dijon, Clermont-Ferrand et Tarbes. 10 à Toulouse et Grenoble, 12 à Mâcon, 13 à Marseille, 14 à Montpellier et ça monte jusqu'à 16 degrés à Nice.
Merci Marlène Duré.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Au programme jusqu'à 9h dans un gros quart d'heure, le zapping politique avec Dimitri Vernet. La revue de presse signée cette semaine, Jacques Serret. Bonjour mon cher Jacques.
Bonjour.
À la une ce matin.
Dans les coulisses du Conseil d'État qui cible CNews, la carte postale d'Édouard Philippe depuis l'île de la Réunion et l'Ukraine 2 ans après l'invasion russe.
À tout à l'heure. Mais avant cela, la signature Europe 1 de Catherine Ney. Bonjour ma chère Catherine.
Bonjour cher Lionel, bonjour à tous.
Alors pour résoudre une crise, rien ne vaut, maintenant on le sait, un grand débat. C'est la jurisprudence Gilets jaunes. Pour sa visite au Salon d'agriculture, Emmanuel Macron a donc organisé un débat avec tous les acteurs et les parties prenantes du secteur agricole. Et pour faire bon poids, ses ennemis jurés, les militants du soulèvement de la terre. Mais face au tollé, cette provocante invitation a été annulée hier soir parce que la FNSEA notamment menaçait de boycotter. En fait,
voilà encore une illustration de la pensée labyrinthique du président de la République. Ce hiatus permanent de l'en même temps conjugué à son irrépressible besoin de provoquer, briser les tabous. Il allait donc mettre face à face des ennemis pour faire surgir un consensus dont il serait le maître d'œuvre et pourquoi pas le triomphateur narcissique comme il l'avait été avec les maires qu'il avait marabouté, souvenez-vous-en. Mmh. Mais quelle idée ! Inviter le soulèvement de la terre. Le monde agricole est un tapis de braise. Ces 30 ans de rancœurs accumulées, de mal de vivre du métier qu'ils aiment, la peur de l'avenir. 1 million d'agriculteurs en 2001, 360 000 seulement en 2023. C'est un monde en voie de disparition. Et depuis toujours, chaque année, c'est vrai, au Salon de l'agriculture, il y avait toujours un secteur plus ou moins en crise, tantôt le lait, les fruits, ou le vin, ou l'élevage. Cette année, on cumule. Toutes les productions sont en crise. Les agriculteurs l'ont fait savoir en haut lieu, que ça ne pouvait plus durer, ils ont manifesté. Et l'exécutif, avec l'arrivée de Gabriel Attal et les encouragements du président, semblait avoir pris la mesure. Il plaçait l'agriculture au-dessus de tout. Et voilà que ce débat que le président imaginait à bâton rompu, quelle rigolade, et risquait sûrement de tourner en bagarre frontale et sanglante.
Alors l'invitation du collectif Les Soulèvements de la Terre a été annulée, ça on le sait, mais le mal est fait.
Oui, parce que c'est incompréhensible. En les invitant, eh bien, c'était une façon de les légitimer. Il désavoue ainsi Gérald Darmanin, qui lui voulait dissoudre ce collectif écologiste, invoquant le droit fondamental de s'exprimer. Le Conseil d'État avait rejeté sa demande. Or, le soulèvement de la terre a été créé par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, vous savez, ces ultra-gauches qui se sont octroyés pendant des années le droit d'occuper, d'investir tout un territoire pour s'opposer à la construction de l'aéroport, malgré le vote favorable de la population. Et leur violence était telle que le gouvernement Macron a reculé. Leur dernier exploit, il y a un an, c'était contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On a vu arriver 8000 manifestants armés de barres de fer, de haches, de cocktails Molotov. 6 tonnes de pierres avaient été amenées par camion, comme l'a démontré l'enquête parlementaire. Et ils saccageaient tous les terrains alentours. 40 policiers avaient été blessés. Eh bien, ce sont des radicaux qui détruisent tout ce qui leur paraît écocide. Presque une secte religieuse, violente, intolérante et surtout hors la loi en permanence.
La responsabilité de cette invitation, Catherine, c'est ce qu'on dit à l'Élysée, en tout cas, elle reviendrait à un conseiller, c'est ça ?
Ce qui prouverait que les conseillers du président sont hors sol et qu'il a bien tort de les écouter. Mais depuis qu'il est à l'Élysée, hormis 2021 pour cause de Covid et 2022, début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron est le recordman de visites longue durée au Salon de l'agriculture. Toujours ce besoin de performance, faire mieux que le chéri des agriculteurs, Jacques Chirac, qui lui restait 12 heures, toujours, mais pas plus. Eh bien, lui, c'est 13 heures, voire 14 heures, comme l'an dernier. Arrivé à 7 heures du matin, départ 23 heures à la fin de la journée, il n'avait plus visage humain. Il est rentré crevé, disait Brigitte, tu m'étonnes. Ce qu'il aime, lui, c'est déambuler et répondre à qui le hait sur son passage, n'importe qui, lequel se voit sommé par une réponse qui étale une connaissance du dossier, y compris les plus techniques. Emmanuel Macron est un amnésique qui retient tout et qui épate forcément ses interlocuteurs, d'autant que c'est quelqu'un comme Jacques Chirac qui adore la charcuterie et il boit pas mal, hein, c'est un grand connaisseur de vin. Mais seulement voilà, ce président sans ancrage territorial épate, c'est vrai, les agriculteurs, mais ça ne sera jamais quelqu'un de la famille. L'agriculture, il ne l'a pas dans les tripes. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des réponses, des vraies tout de suite. On pense au poème d'Apollinaire, comme le temps est lent, mais comme l'impatience est violente.
Merci Catherine Ney. J'ajoute cette information qui vient de nous parvenir. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, annonce ce matin à l'instant qu'il ne participera pas à ce grand débat donc voulu par Emmanuel Macron demain au Salon de l'agriculture. Merci encore Catherine. Bonne journée. À suivre, Jacques Serret et sa revue de presse. À tout de suite.
Europe 1, 7h, 9h.
Lionel Gougelot. 8h41 avant la revue de presse d'Europe 1, un rendez-vous à noter qui pourrait embellir votre après-midi, historiquement vôtre sur Europe 1. C'est du lundi au vendredi de 15h à 16h. Stéphane Bern nous fait le récit d'événements, de lieux, de personnages qui ont façonné l'histoire. Et à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars, à vivre ce soir en clair sur Canal+, mais aussi sur Europe 1 de 20h à minuit, eh bien Stéphane Bern a choisi de braquer son projecteur sur Jean Rochefort. Jean Rochefort, le premier lauréat des Césars, et pour l'accompagner, spécialiste du 7e art, le journaliste Franck Vallière. Rendez-vous donc dès 15h sur Europe 1.
8h42 sur Europe 1, la revue de presse avec Jacques Serret. Bonjour Jacques.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez épluché donc les journaux pour nous et un article suscite particulièrement votre intérêt, Jacques.
Il se trouve en page 8 du Figaro. Au Conseil d'État, ces décisions politiques qui font polémique, titre le quotidien. Une pleine page pour une enquête qui révèle la part d'ombre de la plus haute juridiction administrative de notre pays. Paul Gonzalez nous emmène dans les coursives du Palais Royal, là où des hauts fonctionnaires ont pris la décision d'obliger l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, de durcir son contrôle en matière de pluralisme des opinions sur la chaîne CNews. Et ce qui est décrit est effarant.
C'est-à-dire, Jacques ?
Un conseiller d'État qui réclame l'anonymat fait le constat suivant au sujet de ses collègues. Longtemps, notre seule boussole était la défense de l'État à tout prix. Aujourd'hui, certains jeunes, notamment ceux qui sont rentrés à Sciences Po du temps où Richard Descoings en était le directeur, défendent davantage une vision du monde allant de la défense des minorités à celle de l'environnement, en passant par l'intersectionnalité chère au wokisme. Ce même conseiller d'État va jusqu'à parler d'une incompréhension générationnelle entre les plus anciens membres de l'institution et les plus jeunes. Ils sont confits dans le progressisme comme les cerises dans l'alcool, rapporte cette source au cœur du réacteur de la Cour suprême administrative.
Alors ça fait un peu sourire, mais en fait c'est un inquiétant état des lieux qui est fait là, Jacques.
Le souhait du Conseil d'État de bâillonner CNews menace en fait tous les médias. C'est ce que dénonce en somme maître François-Henri Briard dans les colonnes du quotidien. Pour ce fin connaisseur du droit audiovisuel, cette décision constitue un premier pas dans un monde cauchemardesque, orwellien et aseptisé, où toutes les pensées seraient identifiées et surveillées par la puissance publique.
Ce même Conseil d'État qui avait annulé le décret de dissolution des soulèvements de la Terre.
Oui, vous savez, ce collectif écologiste à l'origine notamment des manifestations de Sainte-Soline où une quarantaine de gendarmes avaient été blessés, les juges des référés avaient estimé que la décision du gouvernement de les dissoudre portait une atteinte grave à la liberté d'association. Mais ce collectif trouve visiblement encore grâce aux yeux d'Emmanuel Macron qui les invite au Salon de l'agriculture. Le président invente le grand déballage, note le journal L'Opinion. Il a décidé de faire la porte de Versailles une sorte de happening. Si tous les invités répondent présent, la séquence risque de se transformer en pugilat. Ce ne sera pas le cas, puisqu'on vient de l'apprendre, l'FNSEA ne participera pas à un quelconque débat, malgré le retrait de l'invitation au soulèvement de la Terre.
Pendant ce temps, dans Le Parisien, un ancien Premier ministre envoie une carte postale.
La page 8 du Parisien n'est pas timbrée, mais elle est signée. Le journaliste politique Olivier Beaumont raconte son périple dans les bagages d'Édouard Philippe sur l'île de La Réunion. L'ancien locataire de Matignon est en bras de chemise, des gants de boxe aux mains, et il cogne. On ne rendra pas plus forte l'agriculture française en répondant uniquement aux urgences. On la rendra plus forte en demandant ce qu'on veut en faire dans les 30 années qui viennent. Aujourd'hui, on manque d'une stratégie nationale agricole. Oui, ces mots sont bien ceux de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron.
Et la missive n'est pas adressée qu'au président d'ailleurs.
Le maire du Havre lâche en effet l'air de rien quelques piques à son rival, normand comme lui, Bruno Le Maire, qui pour rappel a annoncé cette semaine un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Quand je vois tous les pays de l'Union européenne, on est celui qui met le plus de temps à revenir à une situation budgétaire maîtrisée, tacle Édouard Philippe. Le vrai sujet, c'est qu'on a des politiques publiques qui coûtent cher et qui ne marchent pas. La politique du logement par exemple, c'est 40 milliards mais ça ne marche pas. La carte postale pourrait bien rester lettre morte du côté de Bercy. Peu importe pour Édouard Philippe qui ne veut qu'une seule chose, l'Élysée en 2027. 3 ans pour se préparer, c'est court, déclare-t-il. Je sais où je vais, c'est assez réfléchi.
Et maintenant, tout autre sage, Jacques Serret, la presse consacre ce matin aussi une place importante à la guerre en Ukraine.
Demain, cela fera 2 ans, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. Le Parisien craint le spectre d'un conflit sans fin. Il ne faut rien céder, insiste Nicolas Charbonneau. Défaitisme interdit, presse Le Figaro. Nous n'avons pas tout fait pour soutenir les Ukrainiens. Loin de là, l'invisibilité, cela se décrète. L'Europe fait face à un choix existentiel, analyse Philippe Gély dans son édito. Pour Le Figaro, 2024 sera l'année du choc des volontés. Le sort de l'armée de Kiev dépend du soutien occidental et de la mobilisation de sa population. Mais l'opinion pointe un autre conflit, une guerre de l'information, écrit Jean-Dominique Mercher. Moscou utilise tous les moyens pour convaincre les Occidentaux de lâcher l'Ukraine. Ce n'est pas sans effet. Le quotidien libéral cite l'étude du Conseil européen pour les relations internationales. Aujourd'hui, seuls 10% des sondés estiment probable une victoire ukrainienne contre 20% une victoire russe. Il n'en reste pas moins que 82% des Français ont toujours une mauvaise opinion de la Russie, selon l'IFOP.
Et dans les pages culture de votre revue de presse, Jacques, à la fin des quotidiens, ce sont de tout autre pronostics qui sont établis. Il s'agit là de cinéma, bien sûr.
La 49e cérémonie des Césars à suivre en direct sur Europe 1 et en clair sur Canal+. Les Césars sur fond de tempête MeToo, titre Le Parisien, pour qui le sujet des violences sexuelles et sexistes sera sans doute largement abordé, notamment à travers une prise de parole de Judith Godrèche. En attendant, les quotidiens établissent leur propre palmarès. Le Parisien décernerait le César du meilleur film au règne animal et celui du meilleur premier film au chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Pour Le Figaro, c'est Anatomie d'une chute qui mérite le César du meilleur film et Cédric Kahn, le César de meilleur réalisateur pour Le Procès Goldman. À vous de jouer désormais, début de la cérémonie. À 20h45.
Je vous rappelle que sur europe1.fr, merci Jacques, vous pouvez réécouter les interviews de 3 des maîtres de cérémonie de cette soirée des Césars ce soir à l'Olympia. Benoît Magimel, Anna Girardeau et Jean-Pascal Zadi. Merci Jacques. Pascal Pro et vous, c'est sur Europe 1, rappelons-le, tous les jours de la semaine entre 11h et 13h. Bonjour Pascal.
Le César de la meilleure actrice est attribué à... C'est ça qu'on attend ce soir. Vous aimez les Césars ?
Oui.
Moi, j'aime bien. Et puis, c'est la 49e cérémonie. Et ce qui est bien, c'est évidemment quand ça échappe à l'ordre du jour, quand il y a de l'émotion. Alors évidemment, l'émotion la plus forte, c'était sans doute Annie Girardot, mais il y a eu des bons moments régulièrement. Et c'est ça qu'on aime. En revanche, ce qu'on aime moins, c'est lorsque ça devient une tribune politique avec des acteurs ou des actrices, qui était un peu le cas parfois, non pas la dernière d'ailleurs, mais il y a 2 ou 3 ans, c'est ça qu'on aime moins. Ce qu'on aime, c'est quand même les paillettes, l'émotion, le cinéma, l'art, en un mot, l'art cinématographique. Donc ce sera ce soir, on pourra en parler. Je dis souvent qu'on va tous devenir fous. Vous avez vu que l'Association de défense des droits des animaux a demandé l'interdiction des représentants d'animaux, des chevaux de bois dans les manèges. Vous avez vu cette affaire?
J'ai pas vu,
ah ben
non.
Oui, non, mais c'est un bien sûr. Alors, c'est tout à fait anecdotique, mais ça montre le monde dans lequel nous vivons. C'est l'association de défense des animaux, des droits des animaux, PETA. Elle considère que voilà, on donne aux enfants l'image de qu'on peut monter sur des animaux au manège.
Le wokisme est un fléau.
Je pense qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Et puis, on pourra parler d'Emmanuel Macron, évidemment, parce qu'on a beau être habitué à ses zigzags, on a beau être habitué à ne pas ni le connaître ni le comprendre, le soulèvement de la terre, c'est quand même ça, c'est invraisemblable.
Catherine Ney disait tout à l'heure que oui. Ça pourrait être une bévue d'un conseiller de l'Élysée.
Je sais, mais moi j'ai pensé à Charles Pasqua. Pasqua disait quand on a un problème, on crée un deuxième problème pour oublier le premier problème. Et je voilà, c'est des poupées gigognes. Mmh. Mais je ne suis pas sûr en même temps. Moi j'ai renoncé à comprendre le président de la République. Je n'ai pas la grille de lecture. C'est trop subtil pour moi.
Et la FNSEA qui annonce par la voix de son président Arnaud Rousseau qu'elle ne participera pas demain à ce grand débat. Ben, vous aurez peut-être des appels d'agriculteurs qui viendront réagir sur ce sujet dans votre émission.
Ils en ont ras-le-bol. Ils ont le sentiment qu'effectivement tout ça est de la politique de bas étage. Mm-hmm. De la poche.
Merci Pascal, à tout à l'heure. Marlène, vous nous rappelez le numéro pour les auditeurs qui veulent intervenir.
01 80 20 39 21. Vous suivez le guide et puis on vous rappelle, bien sûr.
Merci Marlène. À tout à l'heure Pascal Pro. C'est l'heure du zapping.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Le zapping politique avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri.
Bonjour à tous.
Je crois que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre. Il a fait du théâtre.
Patrick Chianet sur CNews a visé juste. Emmanuel Macron adore le théâtre et nous sommes à J-1 du Salon de l'Agriculture. Alors chut, Lionel, Marlène, ça va commencer. Présentation. Le président organise demain un grand débat au salon avec les agriculteurs. Invitation envoyée à tous les syndicats, mais également coup de théâtre au collectif des soulèvements de la terre. Oui, le président a invité un groupuscule violent qu'il souhaitait dissoudre il y a quelques semaines. Une honte pour les agriculteurs comme pour Patrick Legras de la coordination rurale sur BFM.
Faire ça à une journée de l'ouverture, c'est complètement, je vous dis, hors sol.
Alors au vu de la polémique, l'invitation a été retirée, mais le mal est fait. Comme l'a dit Robert Ménard sur Europe 1 et CNews hier, ce salon s'annonce.
Je te garantis que ça va être rock'n'roll. Hein. Quand je dis rock'n'roll, c'est un euphémisme.
Parce que c'est notre projet.
7 ans que cette pièce de théâtre ruine notre pays. Et qu'est-ce que c'est dur pour les ministres d'expliquer ce scénario du « en même temps », même si Christophe Béchu sur France 2 hier se voulait très clair.
Anne-Bourse, on va se dire les choses de manière très claire. Pour être très clair, pour la clarté du débat, très clairement.
Clarté, ouais, bon, on va vérifier. Christophe Béchu, comment vous expliquez la baisse sur le budget de MaPrimeRénov'?
On était censé augmenter de près de 2 milliards d'euros les crédits de MaPrimeRénov'. Donc en 10 ans, on fait 1 milliard de moins. En fait, on fera moins de plus.
On fera moins de plus. Oui, bon, c'est plus ou moins clair, surtout. Mais attendez, ce n'est rien. Comparé à Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, elle a dû expliquer sur LCI pourquoi le président a sorti le RN de l'arc républicain alors qu'il disait le contraire il y a une semaine.
Oui, tout nous oppose au Rassemblement national.
Mais ils sont
maintenant,
ou pas ?
Est-ce que le président de la République, le Premier ministre et nous tous sommes garants du fonctionnement et de la protection de nos institutions ? Oui.
Bon, on n'a rien compris. Allez, on réessaye. Deuxième chance.
Rien ne nous rapproche du Rassemblement national. Maintenant, nous devons respecter le fait qu'il siège à l'Assemblée nationale.
Non, Prisca, on ne comprend toujours pas.
On pourra discuter en long, en large, en travers dessus. Je pense que nous sommes très clairs.
Bon, bah, ça a le mérite d'être pas clair. Allez, c'est les vacances. Je termine en vous emmenant à Paris. La capitale, ses cafés, croissants, ses monuments aussi. Le Louvre, les Champs-Élysées, mais surtout la Tour Eiffel, notre joyau. Sauf qu'il y a un petit problème. La Dame de Fer serait dans un piteux état, selon les salariés de cette dernière. Information démentie sur France Info par le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.
C'est un joyau de la ville. On entend tout et n'importe quoi. Ce monument est en très bon état.
Bizarre. BFM a donc vérifié en demandant ce qu'il en était vraiment à un des techniciens travaillant à la Tour Eiffel.
Que là, aujourd'hui, elle est dans un état de dégradation avancée. Au niveau de la rouille, il y a une campagne de peinture qui est en cours, mais on a 14 ans de retard. Je vous laisse imaginer l'état de la Tour Eiffel.
Oui, La Tour Eiffel a vécu la Première, la Seconde Guerre mondiale, mais elle ne survit pas au règne parisien d'Anne Hidalgo. Ce qui a fait dire ceci à la ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, sur Sud Radio.
Vous m'avez demandé mon avis, donc je ne vais pas me priver de le donner. La gestion de la ville de Paris par l'équipe municipale actuelle est calamiteuse et c'est déplorable.
Belle conclusion. Et en parlant de conclusion, je laisse la conclusion à ce tube de l'hiver.
Anne Hidalgo, tu n'es pas une bonne mère de Paris.
Vous l'aimez, ce qu'il a, hein ?
Je l'adore.
Je suis sûr qu'il est dans votre playlist en première position.
Bah sûrement, oui. Merci. J'en suis l'auteur,
Capitaine
alors forcément.
C'est ça, votre sonnerie de téléphone, effectivement, comme on me le souffle dans l'oreillette, comme dirait l'autre. Merci Dimitri Vernet, bon week-end,
à
lundi. Un dernier coup d'œil sur la météo du jour, ma chère Marlène Duret, avec toujours cette vigilance orange.
Oui, pour les crues simplement, hein, ça concerne ça, la Vendée et les Deux-Sèvres en raison des cumuls de pluie. Hein. Vous savez que les deux fronts ont donné énormément de pluie et on attend des averses encore aujourd'hui, donc ce qui ne va pas arranger les choses. Averses qui peuvent potentiellement tourner à l'orage, on attend un peu de grésil, ce sont les giboulées avant l'heure, encore un petit peu de vent. Plutôt sur l'ouest du territoire, en allant vers les frontières de l'est et le sud-est, donc Provence, région alpine, là c'est beaucoup plus sec. Et les températures, elles baissent, mais on se rapproche des moyennes de saison, avec en général 7 à 12 degrés, puis un petit peu plus vers la Méditerranée, 13 à 16.
Merci Marlène Duret. L'heure des pros, dans un instant, sur CNews et Europe 1 avec Pascal Pro, et à partir de 9h30, Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Émission spéciale César, bien sûr, hein, avec Gérald Brice-Viret, directeur général des antennes et de programme de Canal+, il y aura Thierry Chaise également, la voix off de la présentation de la cérémonie. Bonne journée Marlène.
Et bon retour.
Demain
Lionel.
C'est Cédric Chasseur qui vous accompagnera dans la matinale week-end et lundi vous retrouverez Dimitri Pavlenko de retour en pleine forme. Bonne journée.